Europe 1,
18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour votre grand journal du soir jusqu'à 20h à la une de l'actualité ce soir. Assouplir les contraintes sanitaires pour permettre la reprise économique et vite, c'est la demande insistante de nombreux patrons. On en parle dans un instant dans votre journal, Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, cette levée des restrictions pour relancer l'économie, que dit le MEDEF? Je reçois dans 20 minutes son président délégué Patrick Martin. 18h30, les grandes voix, faut-il déconfiner encore plus vite alors qu'Emmanuel Macron va parler dimanche soir? Que dira le président? C'est vos questions au 39-21. Et puis à 19h30, le standard reste ouvert. Le Covid a changé notre société. Quels sont ses effets sur les nouvelles technos? Va-t-on vers une société sans contact? On en parle avec vous et avec nos experts, évidemment, de ce monde de demain. Voilà, vous connaissez votre programme de ce mercredi soir. On écoute ensemble Le Monde Changé. Et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h. On nous impose des contraintes très fortes alors qu'on assouplit partout. Donc on va finir par en creux.
Ils veulent aller plus vite. Les chefs d'entreprise appellent à accélérer le déconfinement et assouplir les règles. Ils craignent de rater le rebond.
Et on verra ce que répond l'exécutif puisque Emmanuel Macron s'exprimera dimanche à 20h après un nouveau conseil de défense.
Le président qui appelle à être intraitable sur le racisme mais qui refuse tout amalgame sur les policiers.
Dans le Val-de-Marne, ce sont 4 familles qui portent plainte contre l'interpellation jugée arbitraire de leurs enfants de 14 et 15 ans.
À un moment donné, un des jeunes a dit « Je ne peux pas s'entasser, j'ai les mains dans le dos, je ne suis pas bien ». Il y a le chauffeur de la police municipale qui s'est retourné et qui a mis une grande tarte à un des jeunes.
Dans ce journal aussi, un ours a-t-il été délibérément abattu dans les Pyrénées? Tension ravivée entre pro et anti, nous sommes sur place ce soir.
Et puis le bruit est de retour.
Ah oui, ça ne vous a pas échappé, hein. La ville a repris ses droits, la pollution sonore est de retour et pas seulement, hein. Avec elle les particules fines et les gaz toxiques. La Bourse de Paris à nouveau en recul ce soir, moins 0,8% à 5053 points.
Et bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à
la
tous.
La tendance, le temps avec vous.
Eh bien demain, il va falloir un parapluie. Et toute la journée, une perturbation arrive par la façade atlantique avec des cumuls de pluie par endroits très importants. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Chaque jour, les chiffres de l'épidémie sont un peu plus encourageants. Un cap a même été franchi. Moins de 1000 cas graves dans les hôpitaux aujourd'hui. C'était plus de 7000, hein, au plus fort de la crise. Voilà ce qui justifie tous ces appels qui se multiplient. Appel à accélérer le déconfinement, à assouplir encore les règles sanitaires pour que l'économie puisse reprendre. Des politiques, des chefs d'entreprise, on entendait les restaurateurs hier. C'est aussi le message que porte le secteur du bâtiment. Olivier Samin.
De grâce, laissez-nous respirer. C'est le cri du cœur de Céline Coutant. Ça fait maintenant plusieurs années qu'elle co-dirige avec son frère l'entreprise Alain Coutant Couverture, créée par leur père il y a 34 ans. Implantée à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, l'entreprise emploie 35 salariés et travaille aussi bien pour les collectivités publiques que pour le secteur privé. Céline Coutant n'en peut plus, notamment des mesures qui limitent la présence de plusieurs corps de métier sur un même chantier. Mesures qui entraînent des allongements de planning coûteux pour son entreprise.
On a les matériaux qui sont stockés, donc c'est de la trésorerie qui dort. On a des échafaudages qui sont sur les chantiers et on est obligé de les laisser, donc c'est de la location d'échafaudages qui dort aussi. On nous oblige à doubler les bases de vie sur les chantiers, à les désinfecter X fois par jour. Donc là encore, c'est aux entreprises de mettre la main à la poche. On nous impose des contraintes très fortes et on nous les laisse encore maintenant alors qu'on assouplit partout. Donc on va finir par en crever.
À l'appui de son cri du cœur, Céline Coutant avance un chiffre, 10 à 15%. C'est la perte de production que son entreprise subit du fait de toutes ces contraintes. Elle s'en passerait bien après l'arrêt complet du travail au début du confinement et la reprise progressive de ses chantiers à partir du mois d'avril.
Voilà pour ce témoignage recueilli donc par Olivier Samar du service économie d'Europe 1.
Et le MEDEF justement demande un retour à la normale rapide pour toutes les entreprises. Mon invité 18h20, Patrick Martin, il développera, c'est le président délégué du MEDEF.
Et les prévisions ne sont pas optimistes. Le gouvernement qui présentait aujourd'hui un nouveau budget s'attend à ce que 800 000 emplois soient supprimés en France dans les prochains mois. Bonsoir Jean-Rémy Baudeau.
Bonsoir à tous.
Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir à 20h sur la suite de ce déconfinement. Que dit l'exécutif? Que répond-il à tous ces appels qui se multiplient sur le déconfinement?
Eh bien, la réponse, c'est l'accélération de l'agenda politique. Initialement, souvenez-vous, Emmanuel Macron avait prévu de prendre la parole entre les municipales et le 14 juillet. Finalement, ce sera donc dimanche, alors que vendredi, dans deux jours, l'Élysée accueillera une réunion avec le Conseil scientifique, puis un Conseil de défense. L'exécutif semble de plus en plus pressé d'avancer sur la voie du déconfinement, alors que la situation s'améliore d'un point de vue sanitaire. La pression monte, vous le disiez, dans les restaurants, dans les écoles, dans les entreprises, dans tous ces secteurs qui ont peur de décrocher. On peut ainsi attendre de la part d'Emmanuel Macron, dimanche, un premier bilan de la crise, probablement des annonces pour une accélération du déconfinement. Boucler la boucle laisse entendre son entourage. Sachant que certains de ses conseillers le poussent déjà à esquisser des perspectives pour la suite, l'un de ses proches me confiait cet après-midi qu'il fallait, je cite, « commencer à tracer la voie à emprunter pour entrer dans une nouvelle ère ». Voilà des grands mots pour une réalité. Les Français, ils veulent que la vie reprenne et le président devrait acter la fin de cette longue séquence Covid, probablement dimanche soir.
Alors, cette intervention dimanche, Jean-Rémy Baudouin, elle intervient dans le contexte que l'on sait. On n'a pas entendu Emmanuel Macron depuis les manifestations contre le racisme et les violences policières. Il sera aussi entendu là-dessus ?
Emmanuel Macron, on l'a quasiment pas entendu depuis la fin mai. Il est très attendu, mais pour l'heure, rien ne dit d'ailleurs qu'il s'exprimera sur ce sujet. Pour l'instant, son entourage parle pour lui, son ministre de l'Intérieur lundi, Christophe Castaner. Et puis ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rapporté les mots du président pour qui, je cite, « le racisme et la discrimination sont un fléau, une trahison de l'universalisme républicain ». Le président dit défendre l'écrasante majorité des policiers, dit refuser les amalgames. Voilà pour les mots de l'Élysée. Ce qui est certain, c'est que si Emmanuel Macron en reparlait dimanche soir, ça risquerait de relancer le débat. Fort à parier, donc il devrait rester discret sur cette question.
Dimanche, 20h, le rendez-vous est pris. Merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et on va y revenir hein, tant sur le déconfinement voulu rapide que sur le climat en France après cette affaire George Floyd aux États-Unis. Avec les grandes voix, c'est à 18h30 et jusqu'à 19h.
Et on parlait de ce contexte de tension autour des questions de racisme. La gendarmerie nationale a décidé de saisir la justice après un incident lors d'une manifestation contre les violences policières. Un gendarme noir qui a été insulté, traité, je cite, de sale vendu.
Et dans le Val-de-Marne, là, ce sont quatre familles qui ont déposé plainte cette fois après des interpellations jugé arbitraire, c'était il y a deux semaines.
Et des arrestations accompagnées d'injures racistes et qui ont visé des adolescents, Marion Dubreuil.
Oui, c'est le début d'après-midi. Les quatre collégiens sortent d'un magasin avec des bonbons et des sodas. Ils se retrouvent pour la première fois depuis le déconfinement. Quatre policiers en civil les arrêtent. Très vite, les insultes racistes fusent. Négro, conde arabe. Les quatre adolescents sont plaqués contre le mur et menottés pendant plus de deux heures avant d'être emmenés au commissariat du Kremlin-Bicêtre, explique leur avocat, Jérôme Carsenti.
À un moment donné, un des jeunes a dit « je ne peux pas s'entasser, j'ai les mains dans le dos, je ne suis pas bien », etc. Et il y a le chauffeur du véhicule de la police municipale qui s'est retourné et qui a mis une grande tarte à un des jeunes. Voilà. Et tout le monde est parti au commissariat. On prévient à ce moment-là seulement les parents et ils sont placés en garde à vue. Puis là, on bafoue complètement leurs droits.
Côté police, on l'assure, la procédure est carrée. Les jeunes sont accusés d'un vol à l'arraché commis la veille. La victime a formellement reconnu trois des quatre adolescents qui sont donc placés en garde à vue. Pourtant, le lendemain, les collégiens sont libérés, sans charge. L'un d'eux décrit également une scène d'intimidation avec les mêmes policiers quelques jours plus tard dans un parc de Vitry-sur-Seine. Le parquet de Créteil a confié l'enquête à l'IGPN, la police des polices.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Par ailleurs, le défenseur des droits annonce ouvrir une enquête sur l'arrestation de Gabriel, 14 ans, à Bondy le 25 mai. Il accuse les policiers de l'avoir frappé en le blessant grièvement à l'œil.
Et nous allons à présent dans les Pyrénées, tout à fait autre chose. Les tensions autour de l'ours se sont ravivées entre éleveurs et associations écologistes.
Benjamin Péter, vous êtes sur place en Ariège. Tout est parti de la découverte d'un ours mort hier. L'État a porté plainte. L'animal a vraisemblablement été abattu.
Oui, cet ours de 200 kg a été retrouvé en contrebas d'un sentier. Ce sont des agents de l'Office français de la biodiversité qui étaient justement venus constater une attaque de brebis qui ont découvert cette bête visiblement abattue par arme à feu. Pour Philippe Lacube, éleveur et président de la Chambre d'agriculture, ce n'est pas vraiment une surprise.
Il y a aujourd'hui tellement de douleurs, tellement de gens qui passent des nuits dehors que pour nous, ce n'est pas forcément une surprise qu'aux abois, on puisse avoir de tels comportements. Madame Borne qui porte plainte aujourd'hui pour la mort de cet ours, elle n'a pas porté plainte pour la mort de 3000 brebis depuis 3 ans. Je veux dire, intellectuellement, qu'est-ce qui peut justifier ça?
Aux éleveurs qui s'étonnent de ce déploiement de moyens et aux associations écologistes qui redoutent une enquête bâclée pour ne pas embraser la montagne, le procureur de Foix, Laurent Dumaine, répond qu'il a bien l'intention de faire la lumière sur cette affaire.
C'est pas une nouveauté au sein du tribunal judiciaire de l'Ariège que la question environnementale, et notamment au travers des infractions, est une question prioritaire. Cette enquête sera menée avec la même diligence que toutes les enquêtes en la matière, mais également que toutes les enquêtes où les éleveurs estiment être victimes.
Une autopsie est actuellement en cours à l'école vétérinaire de Toulouse. Les enquêteurs espèrent notamment retrouver la balle. L'auteur, s'il est identifié, risque 3 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Benjamin Peter, envoyé spécial d'Europe 1 en Ariège. C'était un hommage aux victimes du 13 novembre. Une œuvre attribuée à la star mondiale du street art, le mystérieux Banksy. Il avait peint une issue de secours du Bataclan, mais cette porte avait été dérobée l'année dernière. Eh bien, l'œuvre a été retrouvée en Italie, dans une ferme des Abruzzes. Et tout cela grâce à la collaboration entre police française et italienne.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Pas de doute permis, hein. Les voitures sont bel et bien de retour, cela ne nous a pas échappé. Et avec elles, la pollution inévitablement en Ile-de-France est à suivre dans ce journal de 18h.
Et puis l'amertume de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais. Il répond au juge du Conseil d'État.
Europe 1.
18h11 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
La parenthèse est décidément refermée, la ville a bel et bien repris ses droits. Écoutez, tiens.
Ah oui, fini le chant des oiseaux à la fenêtre du confinement. Paris a retrouvé ses bouchons, ses travaux, son bruit permanent et tout ce qui va avec. Justin Morin, ce qui va avec, c'est la qualité de l'air qui s'est nettement dégradée en retrouvant quasiment son niveau d'avant le confinement.
Oui, particulièrement près du périphérique et rattrapé par ces vieux démons. C'est au Tour que sont enregistrés les plus mauvais scores en termes de pollution. Et effectivement, pleine heure de pointe, les bouchons sont de retour, les mauvaises odeurs aussi. Autre preuve selon Eric, il suffit de regarder le ciel.
Ce que j'ai remarqué pour la première fois depuis très longtemps, c'est que le ciel n'était plus aussi bleu qu'il l'était lors du confinement. Le ciel est un petit peu plus gris, j'ai même pensé que c'était des nuages. Et en regardant de plus près, on voit une espèce de couche, un peu comme une espèce de couverture. Et là, on se rend compte que c'est la pollution.
Sur la route, les premiers témoins ce sont les cyclistes. Pascal vient de garer son vélo.
Ça fait bizarre, on sent que ça va aller dans le mauvais sens. Il y a de la voiture, il y a les vapeurs de pot d'échappement. C'est dommage, oui, c'est triste, oui, mais bon, d'un autre côté, il faut bien relancer la machine.
Pendant le confinement, la pollution liée aux voitures a été divisée par 4. Chez Air Paris, cette reprise des émissions était attendue, prévient l'ingénieur Charlotte Songeur.
Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a été progressive. On voit que c'est pas encore totalement revenu sur tous les secteurs, parce que le trafic n'est pas encore revenu à 100%, donc c'est plutôt quelque chose de positif. On a encore un impact sur plusieurs polluants, et notamment les oxydes d'azote. Donc maintenant, à voir comment ça va pouvoir perdurer et comment on va pouvoir agir sur du long terme.
Ce retour de la pollution a aussi été observé dans d'autres régions comme en Occitanie ou en Nouvelle-Aquitaine.
Le reportage de Justin Morin à Paris. Le déconfinement qui se poursuit aussi en Europe. L'Autriche lèvera ses contrôles avec son voisin italien le 16 juin. Et la Commission européenne va proposer une réouverture partielle et progressive des frontières extérieures de l'Union européenne à partir du 1er juillet. Ça va se décider pays par pays en fonction de critères et de façon coordonnée entre les Européens.
Et il n'est pas content du tout, Jean-Michel Aulas. Le président de l'Olympique lyonnais ne décolère pas depuis l'arrêt de la Ligue 1 qui prive l'OL de Coupe d'Europe, d'autant qu'hier, hein, on l'a dit, le Conseil d'État l'a débouté.
Et il répond ce soir, amer, notamment contre la Ligue professionnelle de foot et son directeur général Didier Quillot.
Il faut s'interroger pour savoir si la décision qui a été prise le 30 avril n'était pas trop prématurée. Moi, je vais répondre à Didier Quillot qui avait l'impression de dire que lui traitait de l'intérêt général et moi de l'intérêt particulier, que je pourrais dire exactement l'inverse. Je pourrais dire que quand on parle d'arrêt du championnat, on parle de plusieurs centaines de millions d'euros pour le football français et qu'on parle évidemment aussi d'un manque de compétitivité dans le futur pour les clubs français et pour la France dans sa compétition avec les autres nations. Peut-être. Oui, il y avait, comme nous l'avons dit dans le communiqué, un certain nombre d'intérêts propres pour que le conseil d'administration arrête ce classement, beaucoup trop tôt à notre goût, et avec des règles qui sont différentes de la plupart des autres ligues professionnelles en France, mais aussi à l'étranger.
Voilà l'amertume de Jean-Michel Aulas sur l'arrêt du championnat de foot. Il répondait à Maxime Choche pour Europe 1. Ce soir, le président de la Fédération française de foot, Noël Le Graët, est reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron. Il sera notamment question de la crise qui touche les clubs amateurs. Et puis sur les courts de tennis, là, on ne verra pas Roger Federer cette année. Pause forcée pour le Suisse qui a été réopéré du genou droit. Il donne donc rendez-vous en 2021 avec en ligne de mire à plus de 39 ans les JO de Tokyo l'été prochain.
Et un gros manque, hein, évidemment. Une dernière info en musique. Et voilà, vous l'avez reconnu, hein, Céline Dion et ses fans eh ben, qui s'étaient précipités sur les billets pour les Vieilles Charrues dont elle aurait dû être la tête cette année. Eh ben, les fans devraient être contents.
Oui, les concerts ont été annulés cette année, mais ils sont bien reportés à l'année prochaine. Céline Dion sera bien sur la scène des Vieilles Charrues en 2021 à Carré avec Europe 1. Et si vous aviez des billets pour cette année, ils seront valables l'année prochaine. Idem pour les concerts parisiens de la star à l'U Arena qui auront lieu un peu avant, entre le 19 et le 27 mars 2021.
On laisse courir le morceau, ça donne la pêche. Allez,
allez, regarde.
Ouais, merci Sébastien, tout à l'heure, 18h30. Anissa, bah oui, on en a quand même besoin parce que beaucoup de pluie demain. Donc il faut qu'on ait des raisons de trouver du sourire. Oui. Et en plus, deux départements en vigilance orange.
Oui, on va chanter pour se remonter le moral, effectivement. La vigilance orange pour forte pluie concerne les départements du Finistère et du Morbihan. Alors effectivement, demain, sur toute la façade atlantique, il pleut toute la journée, hein, dès le début de journée et jusqu'au soir. Avec d'ailleurs en Bretagne, en Vendée et sur les Pays de la Loire, des précipitations très soutenues avec des cumuls très importants. Des Hauts-de-France à l'Occitanie, donc à l'avant de cette perturbation, en passant par la région parisienne, le centre, l'Auvergne, et bien là, le temps reste sec, mais attention, le ciel sera bien gris. Et puis, sur le Languedoc, en fin de journée, là, nous aurons des orages qui vont éclater, qui seront parfois violents. En Alsace, sur les Alpes et la Corse, donc sur toute la façade est du pays, et bien là aussi, les orages arrivent dans l'après-midi et ils tiendront le coup, ils vont persister jusqu'à la fin de journée. Sur les côtes de la Manche et en Bretagne, là, c'est le vent de nord-est qui souffle. Du coup, il va bien rafraîchir l'atmosphère, donc on aura la pluie plus la grosse doudoune demain. Les températures, elles sont froides, bien en dessous des normales de saison, avec 7 à 12 degrés le matin du nord au sud, jusqu'à 15 au bord de la Méditerranée. Et puis dans la journée, nous sommes encore sur des températures très froides, 13 à Lorient, 15 à Poitiers l'après-midi, hein, 17 à Bordeaux et Caen, 19 à Limoges, 20 à Clermont-Ferrand, 23 à Paris et 24 à Lyon.
Europe 1. À la suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invitée dans un instant, Nathalie Lévy.
Et cette question, cette échéance qui agite toute la sphère économique, faut-il accélérer le déconfinement pour soutenir la reprise de l'activité? Je pose la question dans deux minutes à mon invité Patrick Martin, le président délégué du MEDEF. C'est sur Europe 1 que ça se passe.
Europe 1. Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et cette question ce soir, faut-il déconfiner plus vite pour accélérer la reprise économique? Avec vous, pour en parler, vous recevez le président délégué du MEDEF, Patrick Martin.
Bonsoir Patrick Martin.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio d'Europe 1. Vous appelez au MEDEF à un retour complet du travail. Emmanuel Macron accélère de toute évidence son calendrier puisqu'il prendra la parole dimanche soir. Qu'attendez-vous? Quels mots attendez-vous? Quelles convictions attendez-vous de la part du président de la République s'agissant du déconfinement?
Bon, il faut d'abord rappeler qu'au pire de la crise, il y avait encore 12 millions de salariés qui travaillaient, hein, pour certains en télétravail. Bon, donc il ne s'agit pas que tout le monde reprenne. Mais il y a des secteurs qui piaffent d'impatience de reprendre, surtout qu'ils voient que d'autres secteurs, eux, sont réautorisés. On a réautorisé les parcs d'attractions, on n'autorise pas les salons professionnels. Et puis il y a des territoires qui souffrent beaucoup, l'Outre-mer, la Corse, parce qu'ils vivent beaucoup du tourisme. Bon. Nous, on se conforme à l'avis du Conseil scientifique. Ça tombe bien. Dimanche dernier, M. Delfraissy a dit qu'il fallait y aller. Allons-y.
C'est ça. Alors, allons-y quand? Parce que dimanche, une annonce, sans doute, si le président prend la parole, c'est pas simplement pour nous dire que tout va bien. Il va donner des dates, il va donner peut-être une date aux restaurateurs. On sait que pour l'instant, ce sont uniquement les terrasses en zone orange, Paris, en l'occurrence, qui sont accessibles. Il faut déconfiner là, tout de suite, dimanche soir pour lundi?
Oui, à nouveau, sauf si les autorités sanitaires brutalement disent le contraire de ce qu'elles ont dit dimanche. Mais quand vous regardez dans la pratique, les restaurants, les terrasses des restaurants à Paris sont déjà blindées. Mmh. Il arrive que quand il y a un orage, les gens rentrent à l'intérieur. Dans les têtes, le cap est franchi, les gens ont envie de vivre et les restaurateurs ont envie de travailler.
Mais est-ce que vous pointez, Patrick Martin, la lenteur du déconfinement qui conduit à une catastrophe économique, hein? Vous n'avez de cesse de le rappeler au MEDEF.
Mais oui, en fait, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est que dans le calendrier de déconfinement, il y a des mesures qui ne nous paraissent pas très cohérentes entre elles. J'évoquais les parcs d'attractions d'un côté, les salons professionnels de l'autre. Et puis, il y a des effets de surprise. De la même manière que les restaurants ont été fermés en quelques heures. Ce qui leur a valu d'ailleurs de balancer des tonnes de victuailles. Donc si on peut avoir de la visibilité, de la prévisibilité, parce que l'économie, ça ne s'improvise pas. Et puis ça redonnera le moral aux acteurs.
Mais alors qui est responsable de cette lenteur? Soyons clairs, disons les choses.
Il y a forcément un responsable ou des responsables. Non, je pense qu'il y a un manque de concertation entre le Bercy, l'économie, le ministère de la Santé, Matignon, etc., etc. À un moment donné, il faudrait quand même que tout ça soit mieux coordonné, soit plus intelligible. À nouveau, nous, on a besoin de prévisibilité. Les touristes ont besoin de prévisibilité, les fournisseurs des restaurants également.
Mais il y a quand même une crainte, Patrick Martin, on ne peut pas la nier. Vous avez entendu, Olivier Véran, cette semaine, a dit « il ne faut pas aller trop vite, ok, la crise elle est contrôlée », les paroles de Delfraissy, mais la guerre n'est pas encore gagnée. Comment répondre à l'appel du ministre de la Santé tout en demandant une reprise complète des activités?
Bon, d'abord, ce terme de guerre, qui n'est pas le premier à avoir employé, moi je trouve très excessif. Il faut voir ce problème avec gravité, mais également avec beaucoup de sérénité et de détermination. On pense qu'il faut relancer l'activité parce que la crise économique et sociale, elle va être beaucoup plus cruelle. Après, les scientifiques, s'ils se mettent d'accord entre eux, ont un avis qui est évidemment à prendre en compte. Mais pour l'instant, on ne comprend rien à ce qu'ils disent.
Alors voilà, ça c'est clair, sauf qu'il y a aussi la crainte de l'automne, la deuxième vague. On ne peut pas l'écarter alors qu'il est. Les avis divergent aussi. Donc si on déconfine tout, absolument tout, là, demain, et qu'à l'automne, quand les températures seront plus mauvaises, eh bien les cas remontent, comme on l'a vu dans certains pays.
Mais il faut absolument intégrer ce scénario, ça ne veut pas dire qu'il va forcément advenir. La grosse différence par rapport à début mars, c'est que dorénavant, et enfin, on est équipé en masque, on est équipé en test, on est équipé pour des prises de température, on sait gérer des clusters, enfin autant de choses qui ont conduit à une mesure totalement généralisée, massive, mi-mars. Il n'y avait probablement pas d'autre solution sur le plan sanitaire, on n'aura pas besoin de ça, je pense.
Vous dites vous-même, vous Patrick Martin, qu'il faut aller plus vite donc dans ce déconfinement, mais via un retour plus large, voire intégral des enfants à l'école. Une enquête de France Télévisions a révélé que près de 40 000 professeurs ont manqué à l'appel pendant le confinement, voire après, donc encore, là, à l'heure où nous parlons. Qu'est-ce qu'on fait alors de ces enfants, de travailleurs, de salariés? Et qu'est-ce qu'on fait aux professeurs? Est-ce qu'il faut les contraindre? Il y a deux questions.
Ah bah écoutez, je doute qu'ils puissent exercer un droit de retrait, parce qu'à nouveau, les conditions sanitaires sont remplies dorénavant.
Donc, sauf que les chiffres sont là.
Bah oui, mais enfin, de la même manière que les salariés du privé, sans qu'on les force, reviennent au boulot, et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux aspirent à revenir au boulot, il faudrait que les professeurs, la minorité de professeurs, parce que 40 000, c'est 40 000 sur un million, il faut quand même le souligner, il faudrait qu'ils reviennent travailler.
Ça veut dire quoi? Les contraindre et comment dans ce cas, Patrick Martin?
Bah écoutez, moi je suis pas un spécialiste de la réglementation du travail dans le public. Or c'est bien dans le public que ça se passe. J'imagine qu'il y a des possibilités pour la hiérarchie, de manière concertée avec les organisations syndicales, de faire revenir ces professeurs. Alors faut pas stigmatiser l'ensemble des professeurs, il y en a qui ont fait un boulot formidable dans cette période.
Absolument, qui ont assuré le suivi des enfants, bien entendu. Patrick Martin, il y a évidemment la question des restaurants, on en a parlé, et il y a la question du chômage technique. Est-ce qu'il faut le prolonger, le chômage partiel, pardonnez-moi? Et jusqu'à quand? Parce qu'on reste dans certains cas dans des situations un peu d'entre-deux.
Alors, le MEDEF a obtenu qu'un deuxième serrement de vis, je dirais, qui était prévu pour début juillet, soit reporté à la rentrée. Il le fallait parce qu'on manque encore de visibilité. Et après, on est en train de mettre en place, par exemple, un système d'activité partielle de longue durée pour des secteurs qui, ils le savent, n'auront pas beaucoup d'activité avant un an, voire deux ans, et où il faut préserver les compétences. Et on imagine en ce moment même, en discussion avec le ministère du Travail, d'autres dispositifs. Mais il faut pas retirer trop vite ces dispositifs, parce qu'à nouveau, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert, et sinon on va tout droit vers un chômage massif.
En marge, légèrement, Esther Duflo et Thomas Piketty, vous voyez très bien de qui je veux parler, ces économistes appellent au rétablissement d'une taxe sur la fortune pour relever la tête. Parce que cette dette, on est parti pour au moins 80 ans. Dans ce contexte de crise, les plus aisés doivent-ils participer davantage à l'effort de guerre?
Alors d'abord, il y a beaucoup de plus aisés qui, sans être en faillite, ont perdu beaucoup d'argent parce que leurs actifs, les entreprises, bien sûr. Mais après, il y a une forme là aussi d'incohérence totale. Les entreprises vont avoir massivement besoin de fonds propres, d'argent, d'injection d'argent. Si on dissuade les investisseurs en les taxant de mettre de l'argent dans les entreprises, je ne sais pas bien qui en mettra.
Mais
pas
à situation...
l'État, il est endetté jusqu'au cou.
Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, non? On n'est pas là-dedans aujourd'hui?
Mais bien sûr que si, on est dans une situation exceptionnelle. Mais il faut arrêter d'agiter cette espèce d'étendard rouge de l'impôt sur la fortune, du prélèvement
forfaitaire. Mais au moins ponctuellement. Écoutez, je ne sais pas, Richard Ferrand quand même, qui s'est dit favorable à une contribution des plus aisés, ne serait-ce qu'effectivement ponctuellement pour casser la crise ?
Mais ça ne cassera rien du tout. Attendez, quand vous regardez le manque à gagner, d'ailleurs très inférieur à ce qui était prévu, avec la transformation et non pas la suppression de l'ISF, c'est 0,15 pour 1000 de la richesse nationale chaque année. Alors si avec ça on rétablit le pays, après qu'il y ait une dimension symbolique, ça n'est pas contestable.
Une fin de non-recevoir, donc en tout cas sur cette question. Merci beaucoup Patrick Martin d'être venu ce soir répondre à mes questions sur Europe 1.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Les grandes voix qui s'apprêtent à entrer dans ce studio. Catherine Ney, Gérard Carrère ou Charles Villeneuve. L'accélération du déconfinement, bien sûr, avec eux et l'affaire Adama Traoré. Le débat commence dans moins de 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Sébastien Krebs, votre rappel des titres.
Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir à 20h sur la poursuite du déconfinement. Faut-il l'accélérer ? C'est ce que réclament des chefs d'entreprise, mais aussi des politiques. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et la maire de Paris demandent à ce que la capitale puisse passer au vert. Aujourd'hui, le troisième budget de crise a été présenté avec une nouvelle enveloppe de 45 milliards d'euros pour les secteurs les plus fragilisés. Le « en même temps » d'Emmanuel Macron, être intraitable sur le racisme, mais refuser tout amalgame. L'écrasante majorité des forces de l'ordre ne saurait être salie, a dit le président tout à l'heure au Conseil des ministres. Aux États-Unis, au lendemain des funérailles de George Floyd, son frère implore le Congrès de mettre fin à la souffrance des Afro-Américains. Il s'exprimait devant une commission parlementaire. La pression mise sur Israël, l'annexion de la Cisjordanie est incompatible avec le droit international. Message de l'Europe lancé par le chef de la diplomatie allemande à Jérusalem aujourd'hui. On y revient à 19h avec Didier François. Et puis le coup dur pour l'un des plus grands navigateurs français, François Gabart, perd son sponsor, la Massif, emportée par la tempête Covid. On l'entendra dans le journal tout à l'heure.
Merci beaucoup Sébastien. Vous revenez à 19h avec de nouvelles infos. Anissa, la pluie qui s'invite encore demain.
Oui, beaucoup de pluie hein, Nathalie, demain avec une perturbation qui arrive par la façade ouest. D'ailleurs, dès ce soir, deux départements sont placés en vigilance orange pour forte pluie. Il s'agit du Finistère et du Morbihan. Donc grande prudence en Bretagne demain. D'ailleurs, c'est sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Vendée hein, que les pluies seront très soutenues demain. Cette perturbation, le matin, va se concentrer sur la façade ouest et puis elle va avancer au fil des heures avec d'ailleurs sur la façade est de l'Alsace à la Corse demain après-midi, des orages qui pourront être localement forts. Les températures bien en dessous des normales de saison, 7 à 12 degrés seulement demain matin et puis dans l'après-midi sous l'impair il faudra un pull col roulé. Hein. On aura seulement 13 degrés à Lorient, 15 à Poitiers, 20 à Clermont-Ferrand et 23 à Paris.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy. Et comme tous les soirs jusqu'à 19h, vos grandes voix sont là, au rendez-vous, autour de vous. Ce soir, Nathalie, Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir. Bonsoir
bienvenue dans ce studio. Déconfinement. Emmanuel Macron s'adressera aux Français dimanche à 20h. On va y venir dans une seconde. Je voudrais que vous écoutiez simplement cet extrait. Faut-il lever les restrictions sanitaires pour libérer l'économie ? Là, tout de suite, cette patronne de PME des Deux-Sèvres était dans le journal de 18h. Écoutons.
Je pense qu'on pourrait alléger toutes les contraintes qu'on nous impose dans le bâtiment, et ça depuis le début, pour nous permettre de reprendre un peu de respiration et d'avancer. On nous impose des contraintes très fortes et on nous les laisse encore maintenant alors qu'on assouplit partout. Donc on va finir par en crever.
Le cri est fort et de plus en plus récurrent, à tel point que peut-être Emmanuel Macron l'a entendu. Charles Villeneuve, en tout cas, il interviendra dimanche à 20h devant les Français.
Oui, il va boucler le cycle d'après les quelques informations que nous avons pu rassembler avec Gérard, Carrérou, Catherine aussi peut-être. Il va boucler le cycle ouvert le 16 mars, lorsque vous vous souvenez de son discours, il avait décrété l'état de guerre, il avait demandé aux Français de rentrer chez eux. Il va saluer, il va faire en quelque sorte aussi le bilan du confinement d'abord et du déconfinement, du nombre de morts. C'est vrai que ce virus a été dangereux, même s'il circule encore, il l'est beaucoup moins depuis un certain temps. On vient d'entendre d'ailleurs le cri quasiment de cette entrepreneuse. Et puis, il va parler de la situation économique, surtout, justement. Et compte tenu de la période de réserve, si vous voulez, qui s'ouvre lundi, c'est-à-dire le lendemain de sa déclaration qui se veut solennelle, il ne va pas parler de l'acte 3 du quinquennat. Il ne va pas parler de politique, si vous voulez, intérieure, puisque la période de réserve, c'est celle qui va déboucher sur le 28, le deuxième tour des élections présidentielles.
Donc ça permet effectivement
des élections municipales.
Ça permet, on avait compris, ça permet effectivement, Catherine Ney, de ne pas aller sur le sujet qui fâche, le sujet évidemment Traoré, mais d'être purement et simplement sur les attentes des Français, les attentes des entreprises. On a entendu Patrick Martin, numéro 2 du MEDEF, il y a quelques secondes. Il faut absolument déconfiner à tout craint, parce que finalement, Delfrécy aussi, président du Conseil scientifique, l'a dit il y a une semaine de ça. On peut y aller. On peut y aller.
Oui, oui, surtout, c'est une allocution, c'est pas une conférence de presse.
Tout
donc, il n'aura pas de questions sur Traoré, parce que c'est un sujet qui est quand même annexe. C'est vrai qu'il y a eu une grande manifestation, enfin, 22 000 personnes qui sont venues sous le coup de l'émotion de l'affaire Georges Feuille devant le tribunal de grande instance, le fameux mardi. Enfin, tout le monde.
Une semaine
affluence qui a surpris la préfecture de police. Mais je veux dire, c'est pas là-dessus, c'est pas sur ce sujet-là que les Français attendent le président. Le président, c'est quid du déconfinement ? Jusqu'où va-t-on ? Est-ce que maintenant on peut même déjeuner, dîner dans les restaurants ? Est-ce que les entreprises, là, peuvent reprendre le temps d'avant ? C'est la seule chose. Et puis, sur les questions économiques, c'est quelles aides on apporte encore aux entreprises ? C'est deux choses. C'est comment on s'en sort et comment réduire le plus la crise économique ?
Exactement. Gérard Carrérou, mettre des mots clairs sur des défis à venir.
J'ai une petite différence. Après tout, je ne sais pas ce qu'il va dire, mais j'ai une petite différence avec ce que vient de dire Catherine. Ce qu'a dit Charles, je le partage, c'est évidemment sur le déconfinement, qu'il faut accélérer, etc., l'économie. Mais je crois, il me semble, en politique, qu'il est premier politique du pays, il ne peut pas
faire l'impasse.
Éluder le sujet de la mort aux États-Unis de George Floyd et les conséquences extrêmement importantes et qui ne font que commencer de ce qui se passe en France. Après, il y a les manifestations, il y en aura une samedi déjà, qui sera à la veille, peut-être pour saluer son intervention du dimanche. Donc, je pense que, après, pourquoi il ne peut pas éluder ? Parce que jusqu'à présent, on attendait une réaction forte de l'exécutif, et on a eu des interventions, au moins pour deux d'entre elles, un peu ratées. Je pense à celle de Castaner, on l'a dit ici, je n'y reviens pas. Ouais. Celle de Madame Belloubat
fut gentille.
Oui, je dis un peu parce que je ne veux pas avoir l'air d'enfoncer trop le clou. Celle de Madame Belloubat fut purement catastrophique. Donc, celle du Premier ministre fut à la hauteur, je crois. Bon,
il a fait le boulot.
Comme d'habitude.
Il a fait le boulot. Mais le président ne peut pas. Le président
faire
de la République. Je pense qu'il va vouloir élever le débat.
Comme il l'a fait ce matin au Conseil des ministres.
Mais il en même temps.
Oui,
au nom
d'une forme d'universalisme qui fait que la condamnation du racisme, etc. Tout ça est très bien.
Et en même temps, Gérard, quand même, aussi, les forces de sécurité, quelles qu'elles soient, gendarmes, policiers et tout, attendent que le chef de l'État réaffirme ce que le Premier ministre a pu faire à Évry.
Oui, c'est-à-dire ce que n'avait pas fait Castaner.
Donc, effectivement, c'est encore une ligne de crête, finalement, pour Emmanuel Macron. Oui. C'est pas nouveau, ce sera dû en même temps, peut-être, on verra. On s'en parle dans une seconde, les grandes voix, tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, jusqu'à 19h. Catherine Ney, Gérard Carrérou et Charles Villeneuve.
Alors, on se retrouve évidemment avec les grandes voix, effectivement, Charles, Gérard, Catherine. Cette accélération du déconfinement, il est très attendu. Le patronat, les petites entreprises, les restaurateurs, bien sûr, parce que, en plus, le temps ne les aide pas. Ils ne peuvent pas remplir les terrasses. Et donc, ils n'ont pas de repli, évidemment, en salle. Il y a cette urgence. Et il y a cette urgence parce que, sinon, c'est 80 ans de dette qu'on laisse à nos enfants.
Oui, puis il faut sortir du ridicule. Oui. Écoutez, moi j'étais à une terrasse d'un restaurant à midi. Restaurant qui a réduit, c'était extrêmement... Bon, au lieu d'avoir, je ne sais pas combien, 12 tables, il en avait 5, parce qu'il fallait respecter. Alors, au même moment où il m'a dit, j'ai été contrôlé déjà 3 fois, ils sont venus me donner un avertissement, etc. Au même moment où on a ça dans tous les restaurants de Paris, on laisse les manifs interdites qui sont largement tolérées.
20 000 personnes,
elles sont quasiment
encouragées.
Une manif interdite tolérée. Et on voit les gens... qui sont les visages à 20 cm les uns des autres, une bonne partie d'entre eux sans masque. Je trouve que c'est une aberration. Donc, il y a un moment donné, il faut lever les dernières restrictions le plus tôt possible, et notamment dans la région parisienne, il faut proclamer que la région est verte. Maintenant, d'ailleurs, elle l'est médicalement. Hein.
Elle l'est médicalement, et moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle l'est dans les têtes. C'est-à-dire que les gens ont eu un tel besoin de liberté, tout ça, que maintenant, ils vont prendre comme une agression. Ils ont très bien joué le jeu avec le confinement. Et moi, j'ai même été surprise qu'ils soient aussi disciplinés, quand même, voir toutes ces villes vides, ça a quand même été quelque chose. Mais là, maintenant, avec le temps qui revient, quand même, l'épidémie qui s'en va, il n'y a plus d'admission. Tous les médecins de ville disent qu'on ne voit plus de gens qui viennent à nos cabinets pour une consultation parce que, bon, alors, il y en a peut-être encore quelques-uns en France entière, mais il n'y en a plus. Donc là, il faut quand même, faut prendre des risques, continuer les mesures barrières le mieux possible, mais recommencer à vivre.
Exactement. Et pour donner des chiffres, moins de 1000 cas graves dans les hôpitaux, c'était plus de 7000 au plus fort de la crise, hein, Charles Villeneuve. Donc les chiffres sont là.
Oui, non mais si vous voulez, l'étude qui a été déterminante d'ailleurs et qui a fait dire au président du conseil scientifique Adel Fraissy, laissez-les vivre, c'est surtout l'étude de Robert Cohen, le professeur pédiatre infectiologue de l'hôpital de Créteil, conduite avec beaucoup de pédiatres français, et qui confirme d'ailleurs l'étude qui avait été faite en Haute-Savoie, vous vous souvenez, peut-être en avril.
Exactement, parce qu'il y a eu deux temps, effectivement.
Que le protocole sanitaire, si vous voulez, très strict, de 4 mètres carrés par élève dans les écoles, est vraiment exagéré, compte tenu du fait qu'en réalité, c'est une maladie d'adulte et pas du tout une maladie d'enfant qui ne sont pas transmetteurs du Covid-19. Et cette étude est assez catégorique. Elle est arrivée lundi matin à la Direction Générale de la Santé. Vous savez que vendredi, justement, l'avant-veille du discours présidentiel de dimanche soir, vous avez une réunion du Conseil scientifique. Et là aussi, on va faire le point. Va-t-on accélérer
aussi dans les écoles,
qui est prévu du 21 au 23, mais en tout cas pour l'école, ça libérerait un certain nombre de parents, mais très important, puisqu'il n'y a que 20% des élèves qui sont revus, qui ont retrouvé le chemin de l'école.
Avec toute la question d'ailleurs des profs décrocheurs, hein, dont on pourrait aussi parler, parce qu'ils ont été nombreux à décrocher, et c'est ce qui pose aussi...
10%.
Oui, non mais maintenant, si vous voulez, la question qui se pose, j'ai écouté Gérard, comme d'habitude, très attentivement...
Merci.
Nous sommes dans la catégorie de population vulnérable, si vous voulez. Il y a 17 à 18 millions quand même de Français qui sont des seniors et qui sont encore vulnérables, notamment ceux qui sont atteints de divers pathologies. Et c'est la raison de la prudence du ministre de la Santé que je partage, moi. C'est-à-dire, tout déconfiner, accélérer le déconfinement... Je pense que c'est un peu tôt et il ne faut pas se laisser gagner par l'euphorie, justement, de ces déjeuners en terrasse.
Oui, mais Charles, on est un déjeuner, on a le droit d'y aller et on a le droit de ne pas y aller.
Oui, c'est ça, moi, c'est une responsabilité individuelle.
J'ai des amis qui sont comme moi, dans ma branche d'âge, si j'ose dire, qui, eux, disent « c'est trop tôt, je préfère encore rester à la maison » et qui refusent même les invitations pour des dîners d'amis chez eux, en disant « non, on n'accepte pas ». Je les comprends très bien, moi-même j'ai hésité parfois. Et puis je me dis, à un moment donné, la vie c'est quand même le risque minimum. Il faut accepter une petite part de risque. Ou alors l'économie partira à volo, quoi.
Non mais il y en a aussi, si vous voulez, toujours dans la même tranche d'âge, qui arrivent à des réunions de travail en cosmonaute, quasiment. Hein.
Oui.
Non mais c'est vrai.
Catherine.
Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la lettre que Angela Merkel, le président Macron, le Polonais, le Danois ont envoyée à la présidente de la Commission européenne pour se préparer à la nouvelle pandémie. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire tous ensemble si jamais il y a une rechute? Est-ce qu'on sera prêt? Comment il faut faire? Où en seront les connaissances de la maladie? Qu'est-ce que l'on sait? Qui seront les personnes les plus vulnérables? Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui ont des pathologies particulières, qui sont jeunes et qui sont encore malades alors qu'ils ont été atteints par la maladie il y a 3 mois. Et cela, ce sont des cas particuliers, mais qui se chiffrent par dizaines de milliers, parce qu'on dit qu'ils sont guéris. Non, il y a plein de gens qui ne sont pas guéris. Donc on sait des choses sur la maladie qu'on va savoir. Et s'il faut se préparer, puisque c'est un cas en Europe, c'est une préparation qui doit se faire à l'échelle européenne.
C'est ça. Il faut une meilleure coordination.
Il faut une meilleure coordination et puis tirer...
Ce n'est pas difficile qu'elle soit meilleure, parce qu'elle n'a pas été terrible.
Mais parce que personne n'était préparé. Personne.
On se retrouve dans un instant, les grandes voix, évidemment, avec Charles Villeneuve, Gérard Carrero, Catherine Ney, à tout de suite.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix, Catherine Ney, Gérard Carrero et Charles Villeneuve jusqu'à 19h.
Et les grandes voix, on revient ensemble aussi sur le comité pour Adama Traoré, finalement, qui ne lâche pas la pression, hein, qui ne lâche pas la pression sur le gouvernement. Nicole Belloubet, d'ailleurs, s'en est expliqué encore ce matin. On verra effectivement si Emmanuel Macron y va ou pas. Mais en tout cas, ils sont là pour se rappeler à son bon souvenir.
Oui, non, mais ils ne lâcheront pas, de toute façon, la pression. Ils ne lâcheraient éventuellement la pression que si les gendarmes étaient, à l'issue des auditions prochaines de début juillet, que si les gendarmes étaient mis en examen et si véritablement on allait vers un procès ou une forme de jugement des gendarmes. Et si ce n'est pas ça, eh ben ils vont continuer. Parce que, il faut dire les choses très simplement, c'est devenu une affaire purement politique. Ce sont des groupes politiques très bien organisés autour d'une famille qu'on peut comprendre dans sa motivation, mais qui sont devenus maintenant entourés par un apparatchik, des apparatchiks politiques, et qui essayent de faire ils essaient de faire une cause en surfant sur cette émotion dont nous parle d'ailleurs M. Castaner. À propos des manifestations, cette émotion qui s'est manifestée aux États-Unis et effectivement dans beaucoup de pays, parce que c'est normal que les jeunes notamment soient écœurés de voir un type tué, assassiné devant leurs yeux à la télévision. Mais ce qui alors donc il y a deux choses et je me terminerai là-dessus. Il y a une chose positive, c'est qu'il y a un sondage qui est bon, qui montre quand même que même si la police est un peu moins populaire, elle est à 69%, un peu moins populaire que l'armée qui est à 85% ou que la gendarmerie qui est à 81%, elle est quand même large, à 69%,
très soutenue par la population.
Elle est soutenue par la population. Et qu'une bonne partie des gens disent ce sont ceux qui agressent les policiers qui sont responsables, éventuellement des bavures. Ce sont eux qui sont responsables. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose. La mauvaise chose, je ne sais pas si on y reviendra, c'est de voir cette espèce de déferlement un peu ridicule. Alors, il y a le racisme qu'il faut combattre, mais il y a une forme d'antiracisme qui devient déraisonnable. Quand il s'agit de balancer des statues, quand il s'agit de balancer des livres écrits comme « Autant on emporte le vent », chez les Américains, on dit maintenant « Attention, c'est un livre raciste, il faut le proscrire ». Et Colbert, le grand ministre de Louis XIV, oui, mais c'est lui en même temps qui a proclamé le Code Noir. Donc il faut virer Colbert de toutes les... Franchement,
ça s'appelle de l'hygiénisme historique.
C'est du déraisonnable.
Ça s'appelle de l'hygiénisme historique, ce vers quoi on tend,
Non, si vous voulez, moi je trouve que... Moi je reviendrai, si vous le permettez, au droit, hein, simplement. Moi, je trouve que, vous savez qu'en principe, le ou la ministre de la Justice s'abstient de toute instruction individuelle dans toute affaire judiciaire. L'affaire Traoré est à l'instruction depuis 4 ans, d'ailleurs, depuis 4 ans, on n'a pas encore trouvé la solution alors qu'il
paraît... Il y a eu nombre d'expertises, on va y venir,
paraît,
Catherine.
Je pense que Catherine, qui connaît assez bien le dossier, en dira quelques mots. L'affaire paraît assez claire à l'heure actuelle de cette instruction. Mais si vous voulez, moi, je vois mal le président de la République d'appeler aussi bien le ministre de l'Intérieur que la ministre de la Justice et de leur donner et de leur dire oui, calmez le jeu, essayez de calmer le jeu, trouvez des solutions, mais recevez la famille Traoré, ça je n'y crois pas un seul instant, et d'ailleurs la ministre a toute liberté, elle, de toute façon, pour lui dire, si elle n'est pas, si elle n'est pas trop bête, et ce n'est pas le cas, de dire, écoutez, on va trouver une solution avec mes conseillers, avec mes juristes, avec une tapée
de
professeurs de droit qui l'entourent, pour essayer d'accommoder le droit.
Ouais. Elle a dit ce matin, je ne veux en aucun cas entrer dans le dossier Traoré. Voilà. Hein, c'est un défendu.
Mais c'est vrai. Oui. Mais si vous voulez, le ministre de l'Intérieur a quand même dit que l'émotion primait toutes les règles juridiques.
Oui, non, mais
il faut l'entendre pour le croire.
Catherine, alors vous avez eu des éléments justement de l'enquête.
Je veux dire, Madame Belloubet, c'est vrai que ça fait 4 ans que ce jeune homme est mort, mais depuis, entre-temps, il y a eu hors de la justice 2 autopsies. 2 séries d'expertises judiciaires, parce qu'on n'est pas comme ça, des expertises, personne n'est, tout le monde ne peut pas faire des expertises, et qui ont été concurrentes, et qui, au vu de l'autopsie, ont vu que ce jeune homme avait une maladie du cœur, qu'il avait un cœur très gros, qu'il avait en plus une maladie des globules rouges, et que lorsqu'il a été arrêté, un jour de canicule, et qu'il faisait 35 degrés, qu'il a couru une première, on a arrêté son frère, il est parti en bicyclette, il a été arrêté par une première patrouille, il s'est enfui, il a été rattrapé par un gendarme, ils se sont battus. Et puis il est encore parti en courant pour se réfugier chez un logeur. Le logeur qui l'a accueilli a trouvé un homme devant sa porte qui haletait, qui était très essoufflé, mais enfin il y avait la chaleur. Et donc il était déjà très mal. Et après les expertises, Il était déjà mourant à ce moment-là. Son pronostic vital était déjà engagé. Les gendarmes sont arrivés alors qu'il était caché, couché derrière un canapé, mais enroulé sous d'une couverture. On l'a quand même relevé sans appuyer sur son thorax, mais on a pris des précautions parce que comme il avait les mains cachées, on se demandait s'il n'était pas armé, parce que les Traoré ont quand même très très mauvaise réputation dans leur secteur. Et donc, on l'a amené à l'hôpital, on l'a amené au poste de police, de gendarmerie, et dans le camion, ils ont vu que menotté, il s'endormait. Alors ils ont dit, est-ce que c'est la chaleur? Et en arrivant, certains ont dit, faites attention, c'est peut-être de la simulation. Et puis c'était pas de la simulation, et quelques temps après, malgré les pompiers qui sont arrivés tout de suite, on n'a pas pu le ranimer. Donc c'est quelqu'un qui est mort parce qu'il avait une maladie qu'il ignorait sans doute. Bon, mais ça, les expertises sont absolument, toutes convergent, alors que c'était des experts indépendants des deux côtés qui étaient mandatés par les juges. Et puis la famille a demandé des avis médicaux à trois médecins qui, sans avoir d'autopsie, ont conclu qu'il avait été il avait eu le thorax écrasé, qu'il était mort asphyxié. Mais ça, c'est un avis médical politique, parce que ça arrange la famille. Mais je veux dire, il n'y a aucune preuve de cette... Et les gendarmes... Moi, je dirais que, par exemple, dans l'affaire... On a eu un homme qui est mort, qui s'appelle Cédric Chauviat. Là, je pense qu'il y a une
bavure policière.
Mais là... Alors, que pouvait faire Mme Belloubet, puisqu'elle connaît le dossier? Qu'est-ce qu'elle peut leur dire?
Et c'est ce que dit aujourd'hui, parce que c'est rare, et c'est même, je crois, la première fois qu'ils prennent la parole, un des avocats, Pascal Rouillet, d'un des gendarmes, qui a pris la parole pour dire que la vérité judiciaire n'intéressait pas la famille Traoré. Il décrit, effectivement, ce que vous avez déroulé là, Catherine, qu'il n'y a pas eu la moindre violence, que les trois gendarmes l'ont raccompagné à la gendarmerie.
Mais ça ne servira à rien, merci. Parce que comme c'est devenu une affaire politique, ça ne calmera pas le jeu.
Et on n'a pas fini d'en parler, donc on y reviendra ensemble. Merci beaucoup les grandes voix, à demain. Merci à vous.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
C'est Sébastien Krebs, son journal à 19h. La croissance française lourdement impactée par la crise, nous dit-il.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et la suite du programme, Nathalie.
Et oui, et après 19h, on regarde vers demain, vous connaissez l'histoire. D'abord à 19h20, l'ouverture demain jeudi d'un village pas comme les autres, le tout premier village Alzheimer de France qui s'apprête à accueillir ses tout premiers résidents. On en parle avec la professeure Hélène Amieva, elle est en charge de ce site particulier. Puis à 19h30, on se tourne vers le futur, dans quel monde et surtout vers quel techno vivrons-nous demain? Quels effets aura cette crise sur nos usages, des nouveaux outils, vos témoignages au 3921, hashtag Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
L'épidémie recule et donc le déconfinement doit s'accélérer. Il faut rouvrir les cafés et les restaurants dès ce week-end en Île-de-France et dans toutes les régions de France.
La droite s'empare de la stratégie de déconfinement et demande à accélérer le mouvement. Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir sur le sujet.
Et cela alors que les indicateurs économiques sont préoccupants. 800 000 suppressions d'emplois attendues en France.
Dans ce journal de 19h, on se projette sur demain. Demain en France, comment visiterons-nous les parcs d'attractions? Le Puy du Fou rouvre ses portes. Nous sommes sur place.
Et demain dans le monde, l'Europe met la pression sur Israël et son projet d'annexer une partie de la Cisjordanie.
Enfin, le coup dur pour l'un de nos meilleurs navigateurs, et ce n'est pas étranger à la crise économique. François Gabart perd son sponsor, la Massif.
Et du côté du temps, Anissa?
Avec deux départements placés en vigilance orange, deux départements bretons pour forte pluie demain. Une nouvelle perturbation très active arrive par l'ouest et puis à l'est. Le tonnerre gronde, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Emmanuel Macron prendra donc la parole dimanche à 20h après un nouveau conseil de défense et une réunion du conseil scientifique prévue vendredi. Il s'agira de préciser la prochaine étape du déconfinement au moment où le monde économique appelle à accélérer et où les indicateurs sont plus que préoccupant.
Le gouvernement s'attend à ce sujet, sur 800 000 emplois supprimés en France dans les prochains mois. Et les provisions de l'OCDE confirment une récession historique.
Un recul de 6% de la richesse cette année dans le monde. Emmanuel Duteil, et la France sera particulièrement affectée.
Oui, la France fait vraiment partie des pays les plus touchés par cette crise. L'OCDE prévoit pour cette année une baisse de notre PIB, c'est-à-dire de tout ce que l'on produit en un an, de 11,4% et de plus de 14% en cas de deuxième vague dans les semaines à venir. Les économies espagnoles et italiennes souffrent aussi très fortement. À titre de comparaison, le PIB américain devrait lui chuter d'un petit peu plus de 7% cette année. En moyenne, cette crise est selon l'OCDE de loin la plus importante depuis la création de l'organisation il y a 60 ans. L'OCDE qui prévient, le choix entre la santé et l'économie est un faux dilemme. Si la pandémie n'est pas jugulée, il n'y aura pas de reprise économique robuste. Mais si chacun fait des efforts, le rebond pourrait être fort et rapide. Sans retour du coronavirus, la croissance mondiale pourrait rebondir selon l'OCDE de plus de 5% l'an prochain. En France, le rebond pourrait être de quasiment 8%. Et certains secteurs comme le e-commerce devraient sortir gagnants de la crise. L'OCDE espère pour sa part que cette crise sera l'occasion d'une transition vers une croissance plus solide et plus durable.
Les précisions d'Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, le troisième budget de crise a été présenté avec une nouvelle enveloppe de 45 milliards d'euros pour les secteurs fragilisés, ce qui fait monter le total du plan d'urgence à 460 milliards d'euros.
Et dans ce contexte, les politiques s'emparent du sujet du déconfinement. Plusieurs voix s'élèvent pour demander à relancer plus vite encore la machine, et notamment à droite. Écoutez le chef de file des députés Les Républicains, Damien Abad.
Il est urgent d'accélérer le déconfinement parce que l'épidémie recule et donc le déconfinement doit s'accélérer. Il faut rouvrir les cafés et les restaurants dès ce week-end en Île-de-France et dans toutes les régions de France. Il faut aussi ouvrir les portes des EHPAD parce qu'aujourd'hui, les grands oubliés du déconfinement, ce sont nos aînés. Il faut relancer l'économie en facilitant tout simplement les protocoles sanitaires, en les simplifiant, en les allégeant. Nous allons proposer la baisse de la TVA sur la restauration à 5,5% pour que tout simplement les restaurateurs qui aujourd'hui font 50 ou 60% de leur chiffre d'affaires puissent avoir une mesure de trésorerie et de relance. Nous allons proposer la TVA à 0% sur les masques et les gels hydroalcooliques pour le pouvoir d'achat des Français. Et puis nous pensons également aux jeunes, aux 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui ne doit pas être une génération sacrifiée. Et donc nous proposons d'exonérer de charges sociales et bien pendant 2 ans l'ensemble des jeunes qui trouvent un travail et qui ont un CDI à la clé.
Damien Abad avec Jean-Gabriel Bourgeois à la droite, donc, qui présente demain ses propositions pour relancer l'économie.
Et la relance qui passe aussi par le tourisme et l'industrie des loisirs, mise à l'arrêt demain en France. Le Puy du Fou sera le premier grand parc d'attractions, ça y est, à rouvrir ses portes au public.
Avec des normes sanitaires et un nombre de visiteurs limité, il faut aussi protéger les comédiens, les dresseurs, les acrobates. Reportage en coulisses au Puy du Fou, Charles Guyard.
On réadapte bien sûr toutes nos chorégraphies en fonction de la situation.
L'armure et la côte de maille ne suffisant plus, le masque en tissu est venu étoffer la protection de Florent Monroe, c'est l'un des chevaliers du Puy du Fou.
On a enlevé tous les corps à corps.
Mais au-delà des costumes, c'est l'ensemble des spectacles qu'il a fallu repenser sans non plus trahir l'histoire. Exemple avec Le Secret de la Lance, dans lequel Laurette Vierre interprète Marguerite, le personnage principal.
À un moment dans le spectacle, Marguerite se fait étrangler. Tous ses contacts physiques ont été totalement remaniés. Alors moi, je n'ai pas de gants ni de masque pendant le spectacle. Par contre, tout autour de moi, tous les autres acteurs sont masqués. Ça a été un parti pris d'épargner le personnage de Marguerite.
Pour d'autres acteurs clés du Puy du Fou, cette réouverture est une vraie délivrance. Il s'agit des oiseaux qui ont eux aussi été confinés. Pendant 2 mois et demi, Thierry Boucher, le responsable de la fauconnerie, ne les a pas lâchés d'une plume.
Les oiseaux sont des athlètes. Il a fallu leur garder leur état de forme sans pour autant les faire voler. Il faut savoir qu'on pèse les oiseaux tous les jours et donc on gardait le poids de vol pendant toute cette période.
La réouverture du Puy du Fou va être surveillée de très près par l'ensemble de la filière qui espère que le feu vert accordé en haut lieu se propagera rapidement aux autres parcs d'envergure en France. Le Puy du Fou, Charles Guyard, Europe 1.
Et Jean-Pierre Montanet, on en parle du coup avec vous. C'est le défi évidemment pour les parcs, adopter des règles strictes, garantir absolument la sécurité sanitaire, mais c'est le typiquement en même temps, il ne faut pas plomber l'ambiance et la magie des attractions.
Exactement, et les 150 hectares du parc du Puy du Fou autorisent à ne pas imposer le port du masque, obligatoire seulement sur quelques étapes de la visite. Dès l'arrivée, l'ombre du corona plane avec un parking réaménagé pour éviter le touche-touche, le gel hydraulique coule à flot, une vigie médicale est en place pour détecter les cas suspects, tout ça histoire de tranquilliser les visiteurs afin qu'ils s'immergent sans crainte dans les multiples univers du parc et profitent des 2 nouveautés 2020, Noces de Feu, un spectacle inédit en nocturne, et l'ouverture d'un hôtel 4 étoiles, Le Grand Siècle, 23 millions d'euros investis dans ce palais de 96 chambres inspiré par le château de Marly, bâti pour Louis XIV et rasé sous la Révolution.
Alors ça c'est pour le Puy du Fou, et c'est aussi bientôt le jour J pour les autres grands parcs français, le Futuroscope, le parc Astérix.
Oui, samedi, Sébastien Poitier retrouve sa locomotive touristique, son parc dédié au Science et ses 2 millions de visiteurs annuels. 95% des attractions ouvertes, hein, fanfaronne son patron. 3 km de bandes signalétiques déroulées au sol pour assurer la fluidité du trafic sans corps à corps. Pour les attractions en salle, un siège sur deux, voire une rangée sur deux sont supprimées afin d'éviter trop de promiscuité. Banni les interminables files d'attente pour les 6 attractions stars. Mais une convocation à l'heure dite via un message sur le portable. Tiens, idée à garder même sans virus. Du côté des irréductibles gaulois, Astérix se déconfine lundi avec du gel en guise de potion magique, masque obligatoire pour les spectacles extérieurs et les 38 attractions ouvertes. Et attention, mise en place de nouvelles procédures d'embarquement et d'installation dans les manèges à sensations. Les mascottes Astérix, Obélisque et Panoramix seront bien de sortie, mais à distance des visiteurs, derrière des menhirs, afin d'éviter la cohue des amateurs de selfies.
Évidemment, je crois que Disneyland Paris, c'est pas pour tout de suite. Hein. Ils n'ont pas encore pu annoncer de date. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet, et à demain.
L'attention ne retombe pas autour des violences policières et du racisme. Ce soir, la préfecture de police annonce qu'elle saisit la justice après la découverte d'insultes taguées dans les rues d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Sauve une vie, tue un flic, à mort les porcs. Voilà le genre de message qu'on pouvait lire sur les murs. Et puis toujours dans le Val-de-Marne, là par ailleurs, ce sont 4 familles qui ont déposé plainte après des interpellations jugées arbitraires de plusieurs adolescents de 14 et 15 ans, accompagnés selon les plaignants d'injures racistes, l'IGPN est saisi.
Et puis du côté de l'Europe, on devra en savoir plus sur l'ouverture des frontières dans les tout prochains jours.
Hein. La Commission européenne va proposer une réouverture partielle et progressive des frontières extérieures de l'Union à partir du 1er juillet, pays par pays et en fonction de différents critères.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Et c'est demain dans le monde à suivre. C'est aussi l'Europe qui met la pression sur Israël pour s'opposer à son projet d'annexion des territoires palestiniens. C'est le décryptage de Didier François dans quelques instants.
Et puis lui a perdu son sponsor emporté par la tempête Covid, le navigateur François Gabart. Coup dur, la Massif se retire.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs.
Et c'est demain dans le monde avec vous Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir Nathalie.
On file en Israël ce soir où le gouvernement a bien l'intention d'annexer une partie de la Cisjordanie.
Le ministre allemand des Affaires étrangères qui était sur place, il a exprimé sa sérieuse inquiétude sur les conséquences pour la paix.
Oui, alors une déclaration plutôt inhabituelle de la part de la diplomatie allemande qui en général évite toute friction avec Israël. Mais dans le cas particulier, l'Allemagne s'exprimait aussi au nom de l'Union européenne, dont Berlin va prendre la présidence tournante le 1er juillet prochain. Or justement, c'est la date prévue par le gouvernement de coalition israélien pour débuter le processus d'annexion qui vise la vallée du Jourdain ainsi que les principales colonies juives installées dans les territoires palestiniens occupés depuis 67.
Alors, une annexion qui provoque un vif débat quand même dans le pays.
Oui, tout à fait. La gauche israélienne est vent debout, multiplie donc les manifestations parce qu'elle estime que cela risque de relancer le conflit israélo-arabe.
L'annexion, c'est-à-dire la guerre perpétuelle.
Voilà, donc
c'est mauvais pour les deux peuples.
Pardon, excusez-moi, c'est un son du député Meretz, donc plutôt même d'extrême gauche d'ailleurs. Mais le roi Abdallah de Jordanie, qui lui est d'excellentes relations avec Israël, et que d'ailleurs le ministre allemand rencontrera demain, exprime exactement les mêmes craintes.
C'est la sécurité d'un conflit permanent, pas une voie vers la stabilité, la sécurité et la paix.
Didier, ces pressions, elles ont une chance d'aboutir ?
Alors, d'abord, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que le gouvernement israélien, qui est majoritaire, peut compter sur un soutien total des États-Unis, de Donald Trump, ce qui n'est pas rien. Mais comme l'annexion est incompatible avec le droit international, enfin, en tout cas, c'est la position de l'Europe, et elle pourrait réagir en décrétant des sanctions économiques. Or, ce que veut absolument éviter Israël, parce qu'avec 30 milliards d'euros en échange par an, l'Union reste le premier partenaire commercial d'Israël.
Et puis il y a une proposition, hein, une contre-proposition palestinienne, hein, qui a été soumise aussi à Donald Trump.
Voilà, bon, de rester dans les frontières de 67 avec des petits échanges de territoires équivalents.
Ouais, évidemment. Merci beaucoup Didier François de nous avoir éclairé sur ce dossier. À demain bien sûr.
À demain.
Les sports avec ce coup dur pour l'un des plus grands navigateurs français. François Gabart perd le sponsor avec qui il a tout gagné, la Massif, qui se retire emporté par la tempête économique du Covid. C'est la fin de 10 ans de collaboration qui avait conduit François Gabart à remporter le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, et c'est surtout l'incertitude qui pèse sur l'avenir, pas évident à encaisser.
Il y a forcément un petit chamboulement là, qui arrive de manière assez brutale. C'était probablement un des moments les plus difficiles que j'ai à vivre. Professionnel, même depuis que je travaille quelque part, là, je refais un peu la métaphore en tant que marin, hein, les tempêtes des mers du Sud à côté de ce que l'on va avoir à vivre quelque part ces prochains jours. Voilà, je préfère être dans le Sud dans des conditions difficiles plutôt qu'à vivre ça parce que bah, voilà, je sais que ça... Ouais, non, ça va être compliqué. Bah, à nous de se réorganiser, de reconstruire ce projet d'une manière un petit peu différente. Pour que je puisse à nouveau être sur l'eau, sur un bateau qui va être fabuleux. Ça, j'en ai vraiment aucun doute.
Voilà, François ouais. Gabart qui a été joint par Corinne Boulou aujourd'hui.
Ouais, un coup dur, hein, clairement. Merci beaucoup Sébastien Krebs, 19h30, ouais, un nouveau journal. Anissa, du côté du temps, pluie, orage pour ce jeudi.
Ouais, c'est ça, c'est une journée très agitée, effectivement, demain, avec deux départements placés en vigilance orange pour forte pluie. Dès ce soir, il s'agit du Finistère et du Morbihan, parce qu'à cause d'une perturbation qui arrive par l'Atlantique demain, et bien de la Normandie jusqu'aux Pyrénées, sur toute la façade atlantique, nous aurons de la pluie dès le lever du jour, avec en Bretagne particulièrement, sur les Pays de la Loire et en Vendée, des cumuls très importants. Donc prudence dans ce secteur. À l'avant de la perturbation, sur la moitié est du pays, le temps reste sec, sous un ciel couvert. Et puis dans l'après-midi et en fin de journée, sur les Ardennes, la Bourgogne, les Alpes du Nord, la Corse, les Alpes-Maritimes et le Massif central, et bien là, nous aurons des nuages nombreux et assez forts par endroits qui vont éclater. Alors, sauf sur le pourtour méditerranéen, l'Alsace, les Ardennes et les Hauts-de-France, il va pleuvoir partout et dans ces régions que je viens de citer, vous aurez une journée placée sous le soleil. Les températures, elles sont encore bien en dessous des moyennes de saison avec seulement 6 au Puy-en-Velay demain matin, 8 à Saint-Étienne, 9 à Brest, 10 à Nantes, 11 à Metz et Vesoul, 12 à Paris. Et puis dans l'après-midi, petite laine et un pair obligatoire avec seulement 14 à 18 degrés sur la façade atlantique sous la pluie, 14 à Rennes, 18 à 23 sur l'ensemble du pays, nous aurons 23 degrés à Paris.
Europe 1. Votre grand journal du soir, c'est avec vous Nathalie Lévy et avec l'invité, l'interview de demain dans un instant.
Et c'est même une première en France, un village qui s'apprête à ouvrir ses portes près de Dax, un village dédié aux malades d'Alzheimer qui doit accueillir ses premiers résidents. On en parle ce soir avec la professeure Hélène Amieva, elle est directrice de la recherche au village Alzheimer, c'est son nom, et ça se passe dans 2 minutes sur Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et on se tourne vers demain. Et on parle d'une première en France, l'ouverture demain d'un village dédié aux malades d'Alzheimer. C'est près de Dax et vous recevez ce soir la professeure Hélène Amieva, neurologue au CHU de Bordeaux, chercheuse à l'INSERM et directrice de la recherche du village Alzheimer.
Bonsoir Hélène Amieva.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Alors voilà, cette ouverture, elle est très importante, c'est pour demain. Elle représente l'aboutissement de combien d'années de travail ?
Oh, je saurais pas dire, mais entre le temps où ça a germé dans la tête de ceux qui ont un jour ont souhaité répliquer le modèle qui a vu le jour en Hollande il y a maintenant une dizaine d'années, et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose comme 5 ou 6 ans que ce projet est en train de naître, et c'est enfin effectivement l'aboutissement demain. Hein,
Évidemment. Quelles sont les différences, clairement, avec le site original des Pays-Bas, le modèle néerlandais, hein, donc ?
Oui, c'est effectivement le premier village qui avait vu le jour il y a 10 ans. Alors, le projet, le village landais Alzheimer est de plus grande envergure, manifestement. Il s'en inspire beaucoup parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas tellement la taille de l'établissement, mais c'est l'esprit. Hein, que l'on veut absolument cultiver. Toutes ces approches relèvent de ce qu'on appelle le courant dementia friendly, excusez-moi de cet anglicisme, en français ça donnerait ami de la démence, c'est pas très très joli, mais on voit un petit peu ce que ça veut dire. Ouais. Et donc le point commun de toutes ces initiatives, c'est chercher à proposer un accompagnement pour les personnes qui souffrent de maladies d'Alzheimer, qui mettrait vraiment au centre le bien-être, la qualité de vie, la dignité des personnes.
Bien sûr, parce qu'il faut que vous nous racontiez ce village. En fait, il a été créé de toutes pièces, avec des commerces, etc. Décrivez-nous les choses, en plus du centre de soins.
le mot village est important, hein, oui, c'est pas juste sûr. Un effet marketing, c'est qu'il a vraiment été conçu comme un village. Tous les attributs d'un village y sont reproduits. C'est un beau site avec un parc qui invite à la promenade, et ce parc abrite quelque chose qui ressemble à un village avec des quartiers. Il y a 4 quartiers avec chacun des références à des différents territoires du département des Landes, oui. Des maisonnées qui respectent l'architecture traditionnelle landaise, les couleurs, les matériaux, etc. Et puis, comme tout bon village, le cœur de ce village, c'est la place centrale. Oui. Alors, dans les Landes, on parle de bastide. Donc, c'est une bastide qui est reproduite avec tout autour des commerces, un coiffeur, une supérette, oui. Un restaurant, une médiathèque, ouvert
le cœur
au public.
Du village. Exactement.
Pas seulement aux résidents, mais oui. Au public de manière générale.
Alors, parlez-nous des patients. Les patients, quels seront leurs profils, combien et d'où viennent-ils?
Alors, c'est 120 personnes qui s'apprêtent progressivement à intégrer le village dès demain. Ce sont des personnes qui répondaient à des critères assez larges. Finalement, les familles ont fait la demande d'intégrer le village comme ils auraient fait la demande d'intégrer un EHPAD. C'était exactement le même processus. Voilà, donc il y avait, d'après ce que je comprends, le souhait a été fait de privilégier en partie des personnes qui viendraient de la région landaise, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, le village a été conçu comme un village landais et ça avait plus de sens pour des personnes de la région. Mais il n'y a pas que des Landais qui intégreront le village. Il y a des personnes d'autres régions et d'autres départements qui sont intégrés. Mais voilà, les critères au final étaient assez larges. Il fallait bien sûr, c'est ouvert exclusivement à des personnes qui ont une maladie neurodégénérative et en particulier une maladie d'Alzheimer. C'est essentiellement ça.
Hélène Amieva, parce que vous êtes neurologue évidemment au CHU de Bordeaux, chercheuse à l'INSERM et puis bien sûr directrice de la recherche dans ce centre, dans ce village d'Alzheimer de Dax qui ouvrira ses portes demain. Comment la recherche se développe-t-elle au sein de ce village? Vous dirigez vous-même l'équipe qui va pendant 5 ans étudier les soignants et pas seulement.
Alors voilà, c'est vraiment une grande originalité de ce projet. Il y a l'innovation sociale dont j'ai parlé très très rapidement, cette conception, ce mode de vie, cette vie qui est mimée comme celle d'un village normal où les gens se promènent, participent à la vie du village, à la vie sociale le plus simplement possible. Il y a cette idée qui est très originale. Il y a cette innovation là et il y a aussi l'innovation sur le plan de la recherche, parce que ce qui m'a évidemment beaucoup intéressée et je trouve assez remarquable dans cette histoire, c'est que le village landais Alzheimer a été conçu dès le départ comme un modèle expérimental.
Oui, c'est ça.
Et le mot expérimental est important, ça veut dire que d'emblée, il s'affiche comme un modèle possiblement alternatif à l'EHPAD, mais pour que ce soit un modèle alternatif, il faut bien sûr aller jusqu'au bout et évaluer réellement l'impact
bien
de
sûr.
Ce
Alors
de
justement,
ce village.
Justement, avec quels objectifs on connaît le évidemment le rôle des médicaments. Cette vie dans le village, cette manière d'être sociabilisée est un recours justement, une manière de les contourner, de contourner cette emprise médicamenteuse.
Alors, de contourner, oui et non. L'idée n'est pas d'opposer l'approche médicale à l'approche sociale de l'accompagnement de ces malades. Je pense que les deux font très bon ménage et il faut concevoir l'accompagnement à la fois en intégrant une bonne prise en charge médicale, mais sans oublier l'approche sociale,
c'est ça.
Précisément. Mais je ne crois pas qu'il faille opposer les deux. L'idée, en tout cas, est de dire que la solution, la réponse à tout problème, et en particulier à tout trouble du comportement, par exemple, chez une personne qui souffre de maladie d'Alzheimer, c'est pas nécessairement un neuroleptique. Ça peut être ça dans certains cas, mais c'est pas forcément ça, et il faut effectivement avoir recours, en tout cas avoir la possibilité d'avoir recours à une palette d'autres types de prise en charge qu'on appelle non médicamenteuse. Et effectivement, cette prise en charge sociale non médicamenteuse, ça fait partie des leitmotivs en quelque sorte de ce village landais, puisque tout va être fait pour que la personne ait une activité complètement
adaptée. Et retrouve en fait de la cognitivité en fait.
Exactement, retrouve la cognitivité, mais d'une manière naturel, normal et non pas artificiel. Finalement, je dis ça depuis longtemps, la stimulation cognitive la plus efficace, c'est la stimulation sociale. C'est celle qu'on entretient tous les jours en croisant son voisin, un ami, sa famille, n'importe quel passant qu'on croise et avec qui on échange.
Outre le village, pardonnez-moi, vous allez élargir aussi à la société autour du site de Dax ?
Alors oui, il y a différents volets dans ce programme de recherche qui va durer 5 ans. Il y a bien sûr l'évolution des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer qu'on va suivre à la loupe. Mmh. Est-ce que la dégradation fonctionnelle est moins rapide ? Est-ce qu'il y a de meilleurs indicateurs de bien-être, de qualité de vie, de participation sociale, on en a parlé, etc. On va aussi s'intéresser aux familles. Hein, on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais les familles, ce sont des acteurs très importants dans ce village et en général dans l'accompagnement de ces malades. Ouais. Placer un proche en EHPAD, ça s'accompagne souvent d'un sentiment d'abandon, de culpabilité très fort et très douloureux. Ouais. Est-ce que ce sentiment est aussi fort ou moins fort dans le village ? On s'intéressera également aux soignants qui connaissent dans ce domaine un épuisement professionnel très important. Il y a pas mal de travaux qui le montrent. Et on va jusqu'à s'intéresser effectivement au grand public pour voir si ce type de projet permet de contribuer à faire évoluer la vision négative que nous avons, que nous partageons
tous, regard de la société.
Finalement, la vieillesse et la maladie d'Alzheimer.
Merci beaucoup, Hélène Amieva, de nous avoir présenter ce village landais Alzheimer de Dax, cette structure unique donc en France qui ouvre ses portes demain, ce jeudi 11 juin. Merci beaucoup.
À suivre dans votre grand journal du soir.
Eh bien, restez avec nous à 19h30. On regarde vers le futur, dans quel monde et surtout vers quelle technologie vivrons-nous demain ? Quels effets aura cette crise sur nos usages des nouvelles technologies ? On en parle avec vous au 3921. Hashtag Europe 1.
Europe 1.
19h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir, Nathalie Lévy.
Et votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Avancer avec prudence et sérieux sur le déconfinement. Voilà les mots de la porte-parole du gouvernement. Emmanuel Macron s'exprimera dimanche soir à 20h pour préciser la prochaine étape après une réunion avec le conseil scientifique. Et cela au moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour demander à assouplir les règles sanitaires. Le déconfinement synonyme de retour de la pollution, notamment à Paris, dioxyde d'azote et particules fines, les émissions quasiment revenues au niveau d'avant la crise, même chose dans les régions sud ou Nouvelle-Aquitaine. À retenir aussi ce soir la tension ravivée autour de l'ours dans les Pyrénées après la découverte d'un animal vraisemblablement abattu. Une œuvre de l'artiste Banksy, qui avait été volée à Paris au Bataclan, a été retrouvée dans une ferme en Italie. Il s'agissait d'un hommage aux victimes du 13 novembre. En tennis, repos forcé pour Roger Federer, saison terminée. Le Suisse a été réopéré du genou. Il donne rendez-vous en 2021 avec en ligne de mire les JO de Tokyo. Puis Céline Dion tiendra sa promesse. Elle sera bien aux Vieilles Charrues, mais l'année prochaine, concert repoussé à l'été 2021. Les billets de cette année seront valables. Si vous les conservez, ce sera un concert avec Europe 1. Ces autres concerts à Paris sont programmés, eux, au mois de mars, toujours 2021, bien sûr.
Merci beaucoup Sébastien Krebs. Demain, de retour, évidemment, dans ce studio, à 18h. Anissa, pluie, parapluie donc, et doudoune.
Ouais, parapluie et doudoune, effectivement. Demain, des températures bien en dessous des normales de saison. Et surtout, beaucoup de pluie avec une nouvelle perturbation qui arrive sur la façade atlantique. D'ailleurs, dès ce soir, Météo France a placé 2 départements en vigilance orange pour forte pluie. Le Finistère et le Morbihan. Donc demain, de la Normandie jusqu'au Pays Basque, c'est de la pluie toute la journée, parfois très intense. Et puis sur la façade est, de l'Alsace jusqu'à la Corse, là, ce sont les orages qui éclatent dans l'après-midi et ils pourront être aussi parfois violents. Entre les deux, des Hauts-de-France jusqu'au Languedoc, et bien là, c'est une journée qui va se dérouler sous les nuages avec des averses assez fréquentes. Les températures fraîches, 7 à 12 degrés le matin et seulement 13 à 24 degrés l'après-midi, 13 à Lorient, 15 à Poitiers, 20 à Clermont-Ferrand et 23 à Paris.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, jusqu'à 20h avec une question ce soir. On regarde vers le futur et on se demande à quoi va ressembler le monde de demain d'un point de vue technologique. Quelles sont les innovations qui vont s'imposer dans notre quotidien post-Covid? Avec vous pour en parler, deux spécialistes, Antoine Lanuzel, rédacteur en chef de la revue Oui Demain, et Anissa Mbida, journaliste innovation ici, chez nous, à Europe 1.
Bonsoir à vous deux, bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir,
Antoine Lanuzel, hello Anissa Mbida, ravi de vous retrouver tous les deux sur, dans ce studio ce soir, avec nos auditeurs évidemment au 3921 dans quelques instants. Alors évidemment, on a beaucoup parlé des nouvelles technologies pendant cette crise du Covid, parce qu'on a beaucoup parlé de télétravail, de conférences en ligne par exemple, mais ça je crois que c'est simplement le petit niveau. Peut-être va-t-on encore monter en grade avec ce que vous allez nous annoncer. En tout cas, la technologie est-elle le remède miracle du Covid et du post-Covid, Antoine Lanuzel?
Alors il est incontestable que le Covid a accéléré un certain nombre de vagues qu'on avait vues. Alors nous, dans Oui Demain, depuis 2012, on scrute ça, donc on les voyait arriver, les drones, les robots, etc. Ça s'est accéléré pour des raisons très simples, à commencer par la distanciation sociale et la nécessité de surveiller des masses de population. Et là, on pourrait par exemple parler des drones qui font débat, voire polémique parfois, puisqu'il y a aussi une question, et on va, j'imagine, y venir, de liberté qui est
posée. Évidemment. Anissa Mbida, on a vu des choses naître, on a vu des tendances aussi très fortes s'imposer.
Oui, se confirmer même. Parce que
se confirmer,
on
exactement.
Va dire que, moi, ce qui vous savez, Nathalie, vous savez que moi j'adore les conséquences sociales de la technologie. Dans les années 80, c'était le cocooning. Dans les années 20 ans après, dans les années 2000, il y a eu les attentats. Donc on a continué cette idée de rester toujours chez soi. On a peur de sortir. Donc toutes les technologies qui nous font rester chez nous, entre soi, elles marchent très bien. 2020, le Covid arrive. Et donc, encore une fois, ça va s'amplifier. Donc toutes les technos qui ont explosé dans les années 2010 vont encore plus exploser. Les applications de rencontres, parce que du coup, on a besoin de moins sortir. Le commerce électronique, on a besoin de moins sortir. La télémédecine, on a moins besoin de sortir. Avant, on y allait quand même chez le médecin. Mais là, on va se dire, finalement, ça marche la télémédecine. Les essayages virtuels, il y a même plein de petites applications qui ont été créées pendant le Covid. Par exemple, déposer ses chèques à distance. Prendre la photo de son chèque et l'envoyer automatiquement plutôt que d'aller à la poste.
Mais donc, dans la même lignée, c'est le QR code qui a fait vraiment, qui a fait vraiment son comeback pendant cette crise, définitivement. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses et d'autres encore, vous allez nous en parler dans un petit instant. On va aussi donner la parole à nos auditeurs. Didier nous appelle d'Avignon. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir.
L'avenir sans contact, vous y croyez?
Alors, l'avenir sans contact, j'y crois, parce que je dirige une société, nous sommes fabricants français de technologies sans contact, donc de produits et solutions, et c'est vrai que, attendez, je vais juste éteindre, je sais pas s'il n'y a pas de gêne chez vous, voilà.
Vous êtes trop connecté, allez-y.
Ça y est, exactement. Je disais que nous sommes fabricants de technologies sans contact sur le territoire français avec une filiale en Espagne. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouveaux usages qui apparaissent. Entre autres, les fabricants d'ascenseurs, autant en Espagne qu'en France, nous consultent pour aujourd'hui appeler un ascenseur et même choisir son étage sans devoir toucher la touche correspondante. Nous avons des entreprises qui nous demandent aujourd'hui des technologies sans contact pour identifier les employés et accéder à des logiciels métiers quel que soit l'endroit où on se trouve, en espace partagé ou en travail à domicile. Ouais, je crois qu'il y a des nouveaux usages qui se créent autour de ces technologies. Bon, je ne parle pas du paiement qui va se généraliser de plus en plus, que ça soit à travers la carte sans contact ou le smartphone. Mais voilà, donc je pense qu'il y a une volonté de circuler ces technologies qui apportent quelques garanties supplémentaires, entre autres, après cette période post-Covid.
Voilà, vous êtes effectivement très en amont sur ce territoire-là. Merci beaucoup, Didier, de nous avoir appelé depuis Avignon. Effectivement, on va bien sûr avoir très envie de ne pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur, mais d'avoir de lui parler et d'avoir directement l'étage, ça, ou les achats en ligne et la livraison par les robots. Faites-nous rêver, entre guillemets.
Tout ne fait pas forcément rêver dans cette affaire.
Non, on est bien d'accord, mais commençons par ça.
La question est de savoir, est-ce qu'on en a besoin? Il faut toujours se poser cette question-là, et combien de temps, puisque actuellement, l'épidémie est en train de se résorber, on peut avoir une seconde vague, personne ne le sait. Ouais. Mais quand on est hors période de Covid, est-ce qu'on a besoin de ne pas appuyer sur le bouton de l'ascenseur et d'être peut-être, je ne sais pas quelle était la technologie développée par votre auditeur, mais admettons que ça soit de la reconnaissance faciale, moi, en période de
non-crise,
non-Covid, je préfère que mon visage ne soit pas reconnu par un algorithme.
Oui, la reconnaissance faciale, d'accord, mais Anissé...
Mais une chose est sûre, c'est que malgré le Covid, il y a quand même la gastro, il y a quand même les hépatites, il y a quand même la grippe, il y a quand même énormément de virus qui circulent, donc il y a plein de choses qu'on touche machinalement, et il va y avoir un après-Covid où on va réfléchir un petit peu avant de toucher. Les paiements sans contact sont un très bon exemple. Hein. On va beaucoup moins utiliser le liquide parce que justement, on évite de toucher un truc qui pourrait éventuellement avoir un microbe.
Ça, c'était en cours. Ça accélère, en fait. Ça accélère d'une certaine manière. Ouais. Ouais.
Mais j'entends ce que vous dites, mais on va y revenir dans un petit instant. Si ce n'est pas nécessairement utile parce qu'il n'y a pas de crise, pourquoi est-ce que ce ne serait pas simplement la logique de la progression, des changements et de l'avènement de toutes ces technologies-là ? On en reparle dans un petit instant avec vous deux, bien sûr, Antoine Lanuzel, Anissé Mbida.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. On parle futur ce soir et on s'intéresse aux nouveautés technologiques post-Covid. À quoi va ressembler notre quotidien avec Antoine Lanuzel, rédacteur en chef de la revue Oui Demain, et Anissé Mbida, journaliste innovation.
Oui, avec des outils évidemment qui font rêver, d'autres qui font un peu peur. Bien sûr, il y a toujours les garde-fous. On a parlé de reconnaissance faciale et bien sûr, Antoine Lanuzel, des limites de cet outil. On se parle aussi bien sûr des arnaques à la carte bleue parce qu'on l'a souvent dit, plus on peut élever maintenant le montant, et on sait aussi quels sont les risques. On a des questions Twitter et des questions aussi de nos auditeurs. Une question Twitter, Anissa d'abord.
Oui, une question d'Inès avec le hashtag Europe 1, qui demande si avec ce confinement et le télétravail, est-ce que les nouvelles technologies ne vont pas maintenant se consacrer sur le bien-être à la maison ?
Ah ben, force est de constater que le confinement l'a montré. On s'est pour l'essentiel concentré sur notre bien-être parce qu'on avait du temps. Beaucoup de gens avaient du travail en moins, première chose. Et deuxième chose, on était dans un espace confiné, ce qui impliquait de numériser tout un tas d'activités, commencer par le sport, par le yoga, par l'école, toutes les relations sociales. On a évidemment beaucoup parlé des apéros Skype, alors qu'ils ont eu leurs limites. Hein. Moi, au bout de 3 apéros Skype, j'ai eu envie de faire un vrai apéro. Et dans Oui Demain, dans ce numéro de Oui Demain qui vient de sortir, on a l'économiste Daniel Cohen qui nous dit, en fait, cette crise, c'est le moment rêvé pour les GAFA, Google, Facebook, Amazon, puisqu'en fait, ils vont pouvoir nous vendre à profusion tous leurs services et leurs produits. Et la question est de savoir de quel monde on veut et s'il ne faut pas un petit peu réguler monde qui serait tout ouvert et tout offert aux GAFA.
C'est évidemment, c'est les limites de l'avènement de ces nouvelles technologies, mais quand même.
Oui, avant d'aller sur le problème de. Parce que plus on a une société numérique, plus on peut faire du piratage, plus on peut y avoir de la cybersécurité. On a vu Honda, par exemple, après Renault, il y a trois ans, Honda a vu fermer ses usines parce qu'il a été victime d'un énorme piratage. Donc plus on va numériser la société, plus on a des risques de prendre des informations privées, de nous voler des informations. Mais en dehors de tout ça, il y a quand même beaucoup de start-up françaises aussi. Il n'y a pas que les GAFA, il y a pas mal de services qui sont développés. Je parlais des chéquiers, de déposer un chèque. Aujourd'hui, on est capable de commander des choses à n'importe quoi, à n'importe quel moment avec son téléphone portable. Mais pour déposer un chèque, il fallait encore se rendre à la poste.
Ouais.
Donc, que le Covid finisse par nous développer des technologies pour ne plus avoir besoin de déposer ce chèque-là. D'autres solutions, par exemple, pour essayer des vêtements ou essayer des chaussures. Quand on fait du commerce électronique aujourd'hui, c'est un peu la loterie. Moi, je connais beaucoup de gens qui prennent trois paires différentes pour être sûr d'avoir la bonne. Et bien maintenant, il y a des technologies pour pouvoir mesurer son pied avec son téléphone portable, comme si on le filmait, et pour vérifier que ça nous va bien. Donc il y a aussi des choses comme ça
qui vont nous simplifier la vie, effectivement, et qui sont pas en train de nous faire modifier notre modèle de société. Mais on va y revenir. Lounis nous appelle de Lille. Bonsoir à vous, Lounis.
Bonsoir.
Votre question, je crois. Allez-y.
Bonjour. J'aimerais savoir est-ce que l'économie de l'après-Covid va. On sait que les nouvelles technologies. On sait que les établissements d'éducation notamment ont eu des difficultés à faire passer des examens. Est-ce que vous pensez que à l'après-Covid, cette maladie a accéléré? Accélérer la recherche dans le domaine du e-learning, par exemple, faire passer des examens à distance, etc.
Merci pour votre question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'apprentissage à distance. À la mi-avril, 191 pays avaient annoncé ou mis en place des fermetures d'écoles ou d'universités, ce qui veut dire qu'il fallait enseigner par écran ou à la maison d'une manière ou d'une autre.
Je trouve assez intéressant, c'est que le Covid a aussi montré la limite d'énormément de technologies. Mmh. C'est que pendant le Covid, on allait imaginer que les drones de livraison, les petits robots de livraison allaient se multiplier, que la réalité virtuelle allait se multiplier. Donc du coup, les élèves, nos enfants, auraient pu mettre des casques de réalité virtuelle et être en présence avec leurs camarades à l'école. Et puis on s'est rendu compte que finalement ça marchait pas du tout, que c'est pas du tout au point, et que c'est des technologies des années 90, hein, la visioconférence, le streaming, etc., qui ont explosé pendant le Covid. Donc il y a beaucoup de technologies qui sont faites sur l'e-learning aujourd'hui, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas hyper au point. Et c'est pour ça que ça n'a pas explosé. Donc il y a toujours la proposition technologique des différents vendeurs, et puis il y a l'acceptation par les utilisateurs, par monsieur et madame tout le monde. Et quand les deux ne sont pas liés, souvent on nous vend un peu du rêve, hein, parfois, ça y est, on va apprendre à distance, etc. Puis quand on essaye vraiment, on se rend compte que c'est pas efficace.
Et puis il y a une notion très importante, à mon avis, qui se pose pour l'ensemble des technologies, c'est l'accessibilité. Je crois que le chiffre de Français qui n'ont pas de smartphone, c'est 25%. Ça veut dire que, par exemple, l'application Stop Covid, vous avez déjà une partie conséquente de la population qui ne peut pas l'avoir. C'est un exemple, mais pour l'éducation, c'est très, très prégnant. C'est-à-dire qu'il y a 10%, je crois, des enfants qui ont lâché le contact avec l'éducation nationale pendant cette période. Donc c'est dramatique, c'est des conséquences sociales qui sont vraiment effroyables et auxquelles il va falloir remédier. C'est-à-dire que l'école va se numériser. Je crois que Jean-Michel Blanquer a prévu des états généraux de l'école numérique.
Encore faut-il qu'il n'y ait pas que des zones, qu'il y ait moins de zones blanches et de zones grises.
Absolument, ça implique une connectivité, ça implique que les équipements soient présents dans les foyers et aussi qu'il y ait une culture de l'utilisation de ces équipements. Donc c'est tout un nouveau paradigme, je dirais, il faut aussi culturel et social qui ne change pas si vite que ça.
Il faut que la pédagogie soit efficace parce que pour le moment, on n'a pas encore prouvé et on n'a pas encore démontré que passer par un écran ou par l'intermédiaire d'un écran ou d'une réalité virtuelle, c'était plus efficace que d'être en présentiel.
Absolument.
Et puis, est-ce qu'on a envie d'avoir des enseignants robots dotés d'une intelligence artificielle? Est-ce qu'une majorité des gens ont envie de ça?
Non, mais on en est loin, des enseignants robots.
De toute façon.
En revanche, il y a autre chose qui est en train de se passer, c'est que la téléprésence, la technologie qui fait de la téléprésence, ça existe depuis quelques années, la téléprésence, sauf que c'était très peu... Téléprésence, c'est quoi? C'est grosso modo, je ne peux pas être à un endroit, donc j'envoie un robot à ma place qui est mes yeux, mes oreilles et que je contrôle, que je pilote. Ces technologies-là, on ne savait pas trop à quoi elles pouvaient servir, hein, c'était surtout des démos. Et bien aujourd'hui, on commence à se dire, tiens, ça peut être très pratique. Typiquement, le télétravail des ouvriers.
Oui, par exemple.
Quand je veux piloter un robot industriel à distance, eh bien maintenant, je vais pouvoir le faire. On se réfléchit à ce que des personnes, que ce ne soit pas juste l'école blanche qui télétravaille, mais qu'on puisse avoir cette flexibilité si jamais il y a une pandémie, si jamais il y a un accident, qu'on puisse quand même accéder à son outil de travail, qu'on puisse piloter les outils de travail avec des outils de téléprésence. Il y a pas mal de choses comme ça sur lesquelles on travaille.
Bien sûr. Et puis la télésanté quand même. Je voudrais qu'on en reparle dans un petit instant parce que là, la télésanté, elle a quand même été peut-être un des moyens de contenir la propagation du Covid-19. Après, comment elle peut-elle encore se développer? On en reparle dans un petit instant avec vous deux, Antoine Lanuzel et Assénissé Mbida.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 20h un bond dans le futur. On s'intéresse au monde de demain et aux nouvelles technologies post-Covid avec vos invités Nathalie Lévy, Antoine Lanuzel, rédacteur en chef de la revue Oui Demain et Anissé Mbida, journaliste innovation.
Et les auditeurs avec une question pour vous. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Vous avez 20 ans, vous nous appelez de Paris. N'hésitez pas à poser votre question.
Merci. Ma question, c'était, est-ce que vous pensez qu'il existe d'autres nouvelles technologies, à part la géolocalisation, qui soient des atteintes ou des dangers pour les libertés individuelles?
On en a parlé il y a quelques minutes, c'est vrai, Antoine.
Oui,
Lindel,
dès que c'est numérique, c'est une atteinte pour une liberté individuelle, parce qu'a priori, on peut mettre un virus, on peut se connecter à votre téléphone, on peut vous écouter, on peut rentrer par le petit bout de la lorgnette et après tirer le fil et avoir énormément d'informations sur soi, donc le GPS, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en est assez tous conscients. Ça veut dire que dans beaucoup de questions, depuis qu'on a commencé cette émission, beaucoup de gens, on est alerte. Ça veut dire qu'on ne laissera pas se faire n'importe quoi. On est tous très conscients.
Avec quelques paradoxes. Paradoxe quand même, parce qu'il y a une défiance assez forte qui est en partie légitime sur les applis de tracking pour notamment stopper la propagation du Covid. Et puis, les gens donnent leur vie entière à des applis dont ils ne connaissent pas les propriétaires ni où sont les serveurs. Donc en fait, il y a des vraies contradictions et je ne suis pas certain qu'on soit tous complètement alertes dans ce pays et dans la plupart des pays aujourd'hui, même si aujourd'hui on a la chance en France d'avoir quand même des organismes qui encadrent de façon très très précise la collecte des données, à commencer par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, qui elle fait un travail quotidien et d'autant plus depuis le début du Covid.
Mais soyons très clairs, Antoine Lanuzel, Anissé Mbida, quand on commande un article sur Amazon ou d'autres plateformes et quand on va sur les réseaux sociaux, tout, enfin, carrément, les GAFA savent exactement qui on est, comment, quoi.
Oui, est-ce que c'est un problème? Il y a toujours la fameuse réponse, est-ce que j'ai quelque chose à me reprocher? Non, bon, voilà. Et puis quand c'est des prestataires privés qui ont juste des intérêts commerciaux, on se dit qu'ils ont juste intérêt à nous vendre des baskets et que c'est très bien. Mais c'est aussi un modèle de société.
Bien sûr.
Commander sur Amazon, c'est pas aller commander un bouquin dans la librairie du quartier. Donc, il faut savoir un petit peu la logique globale qui entoure nos actes d'achat. Et en soi, commander sur Amazon, c'est quand même très, très symbolique sur l'émergence d'un monde qu'on a le droit de questionner.
Mark Zuckerberg, vous vous en souvenez, il a annoncé qu'il prévoyait que 50% des salariés de Facebook seraient en télétravail d'ici quelques années. Il l'a dit envers la fin du confinement, hein, si mes souvenirs sont bons. Alors, le télétravail, c'est plus une technologie de demain parce qu'on y est et peut-être certains vont le rester durablement. Vous y croyez, vous deux?
Mais ça fait longtemps qu'on parle du télétravail. Il y a eu des tiers-lieux, on a organisé même des endroits autour des villes pour que les gens puissent télétravailler, sauf que ça n'accrochait pas. Ça n'accrochait pas parce que la culture latine veut que on se voit, on est ensemble.
Et puis aussi qu'on surveille les heures de travail effectuées, non ?
Et on surveille aussi parce que les entreprises sont très militaires, Donc c'est surtout des problèmes culturels. Et après, quand on était obligé de le faire, on avait déjà les technologies, on avait déjà les tiers-lieux, on avait déjà les espaces de coworking qui existaient. Donc ça a pu décoller très vite. On a tous des mails, les ordinateurs portables, on a l'infrastructure qui est déjà faite. Donc ça va se développer. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a développé des autres formes de télétravail, par exemple le sport à distance.
Oui.
C'est que avant, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on va se rendre compte qu'on peut tout faire chez soi et qu'on a peur de sortir parce qu'il y a du virus, parce qu'il y a des attentats, parce qu'il y a plein de choses, eh bien tous ceux qui vont nous proposer des choses pour rester chez soi, faire du sport à distance, eh bien je n'irai plus au club de gym parce que ça m'ennuyait d'aller au club de gym. Eh bien je vais pouvoir le faire à la maison. Le sport, par exemple, on commence maintenant à faire des... On connaît les home trainers, ce sont les vélos, vous savez, les vélos qui sont capables de répliquer les pentes,
etc. Ah non, ça je ne connaissais pas, c'est extraordinaire.
C'est un vélo, un vélo d'appartement.
Un vélo d'appartement, sur appli ?
Sur appli, mais qui est capable de vous faire des montagnes, etc. C'est comme ça que
personnellement, ça me fait absolument pas envie, ce genre de choses. Moi, j'ai envie de sortir, faire du sport.
Mais bien sûr, il faut reconnaître la société dans laquelle on est, on a peur de sortir, et puis on n'a pas forcément envie de rencontrer du monde. Ouais. Pourquoi les applications de rencontres ont explosé? On peut se dire, on rencontre les gens et que c'est bien mieux, parce que c'était beaucoup plus confortable. On se mettait beaucoup moins...
Parce qu'il y avait une solitude manifeste des gens qui étaient chez eux et qui avaient besoin de connecter avec d'autres et
solitude à Paris, alors qu'on est des millions de gens, on a des voisins.
Confinés.
Les applications de rencontres. Elles ont explosé.
C'est effectivement une tournure que prend la société.
C'est une société qui va
toujours vers le sans contact. C'est-à-dire qu'on se rencontre sans contact. Effectivement. Mais je pense qu'on est en droit aussi de poser cette question de jusqu'où on va créer des services pour cultiver une nouvelle culture du tout à domicile. Parce qu'une fois qu'on sera tous à domicile, quel type de vie on aura?
On sera jamais tous tout le temps à domicile, enfin a priori, mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que il y a des vraies opportunités aujourd'hui d'avancer, par exemple aussi avec la télésanté, je commençais à l'aborder il y a quelques instants, qui a peut-être été aussi un moyen de contenir l'épidémie du Covid-19, avec quand même des soins primaires essentiels qui peuvent être prodigués via un écran, via un médecin en télémédecine. Ça sauve des vies quand même.
C'est le meilleur exemple, ça. C'est comme le télétravail. Personne ne voulait le faire. Ça existe depuis longtemps. Il y a eu des encouragements de l'État pour faire de la télémédecine, mais personne ne voulait le faire. Et il a fallu un événement comme le Covid pour que les gens s'y mettent. Et là, on s'est rendu compte que ça, finalement, c'était pas si mal, que j'ai gagné du temps et que ça me permettait d'être soigné de façon plus régulière.
Et dans les pays où les frais médicaux sont élevés,
Par exemple. Et je crois qu'en France, c'est x10 les consultations médicales, donc à distance. Alors ça touche aussi bien les consultations généralistes que des spécialités comme les psys. Aussi même les gynécos pour les femmes. Enfin, il y a eu des choses assez surprenantes qui se sont mises en place et presque instaurées et qui resteront peut-être pour certains patients et qui sont absolument utiles. Maintenant, c'est comme l'éducation. La médecine va nécessiter un contact humain et continue à le nécessiter plus que jamais.
On conclut.
Oui, une techno extraordinaire, par exemple, c'est le monitoring des femmes enceintes à distance. C'est le genre de choses qu'on ne pensait pas faire avant et que maintenant on fait naturellement. Ça évite des déplacements, ça évite dans certains déserts médicaux des personnes de faire des centaines de kilomètres simplement pour être suivies par un gynécologue. Donc il y a le côté un peu psychose de « oulala, c'est terrible, on est une mauvaise société », mais il y a aussi cette idée d'ouvrir les barrières de certaines
personnes. Et de progrès dans certains domaines. Ouais.
Merci beaucoup, avec évidemment les garde-fous qui vont bien et qui sont nécessaires. Merci à tous les deux, Antoine Lanuzel, Anis et Mbida, de nous avoir accompagnés. On va se retrouver évidemment demain soir, mais avant cela, c'est musique. Après 20h, Émilie Mazoyer prend les rênes avec ce soir un invité découverte, un jeune groupe Mauvais Oeil, qui chante en français et en arabe, et puis le concert Bill Withers 1973, il y a plus de 40 ans. Il nous a quitté le 30 mars dernier. Un classique. Merci de votre fidélité. Demain soir, 18h, on sera en rendez-vous pour écouter ensemble Monde Changé. L'info revient dans un instant. Très belle soirée.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1. Europe 1.